on n'est plus du tout en mode touriste. On n'est pas là pour voir un maximum de choses en minimum de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vivre notre vie comme ça. Et donc, plus on va pouvoir rester longtemps à un endroit, mieux c'est finalement, parce qu'on va pouvoir vraiment s'imprégner de la culture. Les enfants vont pouvoir rencontrer d'autres enfants et rester en contact pendant une plus longue période. On veut vraiment vivre notre vie sur les routes.
Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Ce que j'aime dans les expéditions et les voyages d'aventure, cela se résume en un mot, connexion. Se sentir pleinement vivant parce qu'on est enfin connecté à soi, aux autres et à son environnement. On se sent enfin à sa place. Et je te souhaite que cela t'arrive plus souvent qu'une fois par an en vacances, parce que la vie, c'est tous les jours. Si tu te dis « oui, l'aventure c'est très bien, mais quand on a une famille, ce n'est pas possible », je vais te mettre entre les oreilles ce jour une petite famille qui n'a pas froid aux yeux. Donc aujourd'hui, je te propose un épisode avec des gens ordinaires qui ont décidé de vivre une vie extraordinaire et encore mieux, de l'offrir à leurs enfants. J'espère que cela va t'inspirer, quel que soit ton rêve et tes envies, vivre autrement, c'est possible. Il y a une histoire que j'aime beaucoup qui tient en une phrase, j'ai vécu toute ma vie dans une prison pour me rendre compte, à la fin, que la clé était à l'intérieur. Eh bien, les Bina Vibe, la clé, ils ont bien vu où elle était et ils sont vite sortis. Si tu as des enfants, cet épisode va certainement beaucoup te parler. Si tu n'en as pas, il te parlera aussi, j'en suis sûre. On y parle de vivre sa vie, de liberté, d'oser être différent du troupeau. Et ça, ça fait un bien fou. Merci à toi Florence qui m'a fait découvrir cette famille en or. Petit rappel, depuis quelques épisodes, je mets le chapitrage dans les notes de l'épisode. Comme ça, si tu veux te concentrer sur les passages qui t'intéressent le plus, il n'y a qu'à suivre le guide. J'en profite pour t'annoncer que le prochain épisode avant les mini-épisodes de l'été, ce sera avec Claire et Christophe Flippot, les gagnants de Pékin Express. Encore un autre genre d'aventure, pour commencer l'été, c'est plutôt pas mal. J'enregistre aussi prochainement des amoureux du packraft et de la Scandinavie, qui auront encore bien des idées d'aventure à te mettre entre les oreilles. Et si toi, tu as des envies ou des suggestions de contenu, fais-le moi savoir en DM sur Insta, Facebook ou Twitter, je serai ravie de te faire plaisir. Bonjour Benoît et Virginie.
Bonjour.
Bonjour.
Bah, bienvenue à Namur. Je vais vous laisser présenter votre petite tribu, le chef de famille.
Non, le neurofemme.
Alors, nous, ce sont les Bina Vibe. Nous sommes une petite famille de 6. Benoît, moi et alors les 4 filles. Olivia, 10 ans. Jill, 9 ans. Yoko, 3 ans. Et Sue, 1 an et demi.
Et donc, je vous ai invité aujourd'hui pour parler de votre projet, un peu fou ou très raisonnable, ça dépendra des points de vue. Raisonnable si le but, c'est de vivre sa vie. Un peu fou si c'est vivre autrement que tout le monde. Parce que vous, vous avez tout lâché, vous avez tout revendu pour voyager. Et on ne parle pas que d'une année sabbatique. Alors, il y a plein de choses que je vais développer avec vous. Mais d'abord, qu'est-ce qui donne envie de tout revendre et de partir comme ça? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Il y a eu un élément déclencheur, il y a eu plusieurs petits éléments qui ont été déclencheurs. Moi, mon élément déclencheur, c'est simple, c'est qu'on a refusé mes congés.
Voilà.
En fait, c'est le dernier impact du départ, c'est que j'ai fait une demande de congé pour partir sur 3 mois et il m'a été refusé. Et donc, en descendant du bureau de mon supérieur, je me suis dit, non, en fait, il n'y a personne le matin qui peut se lever et décider pour moi. J'ai su rentrer à la maison et j'ai dit à Virginie, écoute, on est parti.
Voilà, maintenant, ça faisait plusieurs années qu'on y pensait. On était déjà partis en voyage en 2019 pendant 3 mois avec les filles. Depuis le voyage, on s'était dit, à long terme, c'est ce qu'on veut faire. On veut tout quitter et voyager à temps plein et puis se reposer probablement pas en Belgique. Et donc voilà, on ne savait pas encore la date. On parlait de 2023 et puis voilà, après, ça s'est un petit peu accéléré. Le Covid a joué aussi. Le fait de se rendre compte que tout pouvait changer du jour au lendemain, on s'est dit que nous aussi, on pouvait changer notre vie du jour au lendemain et ne plus se retrouver coincé à devoir suivre toutes les directives qu'on nous donnait. Et donc, voilà. Et puis finalement, la vente de la maison, là, c'était vraiment la dernière étape.
C'est marrant parce que le fait de... Pour les congés, là, moi aussi, c'est un truc qui me... Mais c'est plus possible, je vais devenir indépendante. Parce que tu te dis, attends, non, tu donnes tout. Et après, quand tu veux te reposer un peu, on te dit,
c'est pas le moment, faut voir un peu. Tu sais rien organiser à l'avance. Non, c'est vrai que c'est la liberté, c'est important.
J'étais fonctionnaire pendant 15 ans et dans le métier de fonctionnaire, pour moi, la carotte, c'était mes congés. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui dise bah, non, la raison est valable, mais elle n'était pas fondée à ce moment-là. Je me suis fait, tu sais, quoi, ici, c'est le déclic. Généralement, on attend toujours un déclic ou quelque chose, un message. Bah, moi, le message, il est passé ce jour-là. Surtout quand on voit la suite, qu'il est assez facile, en réalité, de vendre une maison, de vendre des voitures, et puis c'est terminé. Bah, maintenant, on a le recul qui va avec, mais oui. Pour moi, c'est un chouette déclic. Au final, ça devient un chouette déclic. Hein. Bon, je vous remercie.
Merci d'avoir refusé les congés. Je me souviens qu'en prépa, vous m'aviez parlé de choses aussi. Voilà, vous aviez beaucoup apprécié, je crois que c'était en marchant. Vous aviez été séduit par le fait d'être totalement désencombré.
On a déjà beaucoup marché, on a déjà fait une partie du Saint-Jacques de Compostelle avec les enfants. On a fait une grosse partie du GR5, donc là nous sommes arrivés au pied des Alpes. Et à chaque fois qu'on a marché, ce sentiment de liberté, donc d'avoir rien de prévu. À part marcher, on n'avait rien à faire. On devait juste le soir arriver quelque part et dormir. Mais toute la journée, être complètement libre, n'avoir aucune obligation, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Et donc, on s'est dit, la vie, ça peut être ça aussi. En fait, la vie, c'est pas que métro, boulot, dodo. On peut aussi se sentir libre et on a voulu vivre ça aussi à temps plein.
Et vous aviez déjà des exemples de personnes qui avaient fait ça? On vous a dit, pourquoi pas nous ou...
Non, pas du tout, en fait. Mais nous, on se dit toujours que tout est possible, donc voilà.
Ouais, non, c'est étonnant de ne jamais avoir entendu parler du fait que c'est possible. Souvent, on croise des gens qui le font depuis des années, puis on se dit « Ah ouais, non, rien de tout ça ?»
Non, en fait, en Asie, on avait croisé une famille qui était partie pour un an autour du monde. Donc, on a toujours entendu les gens qui partaient en tour du monde pendant un an. Donc, ils faisaient un nombre incalculable de pays pendant un an et puis qui revenaient. Et j'ai suivi un petit peu l'actualité des gens qui revenaient, qui étaient dépressifs parce qu'ils revenaient d'un voyage d'un an. Et ça, c'était compliqué. Mais des gens qui vendaient tout pour partir et de ne pas connaître le futur, de ne pas avoir de plan établi, on n'en connaissait pas à la base.
Oui, parce que ça, c'est votre projet assez particulier. C'est que vous, voilà, vous avez décidé de tout revendre, partir, mais alors le billet de retour, pas spécialement. Enfin, tout est ouvert.
Oui, on ne fonctionne pas vraiment avec des plans. Donc, on a peut-être une idée de chambre d'hôte au Japon, qui est un peu le point lointain de notre voyage. Mais en fait, pour expliquer encore plus simplement, quand on a 18 ans, si on offre à un enfant le maximum dans sa vie d'éventail de possibilités, on l'ouvre à tout ce qui est possible. Et comme je dis souvent, si par exemple ma maman m'avait appris que l'humanitaire existait, je serais peut-être parti faire de l'humanité. Et donc ce que je dis toujours pour mes enfants, c'est que je voudrais bien leur ouvrir le maximum dans l'éventail, ouvrir au maximum tout ce qu'on peut faire, et après elles vont choisir.
Oui. Ben oui, et donc c'est pas un projet rien qu'à nous deux, en fait. C'est vraiment un projet familial de se dire, ben voilà, on emmène les filles avec nous, on va pas attendre qu'elles aient 18 ans pour faire ce voyage. On veut qu'elles puissent le vivre, qu'elles puissent apprendre plein de choses en même temps que nous. C'est surtout aussi pour elles qu'on le fait maintenant. Le choix aussi de se dire, ben il y a pas de date retour. Clairement, nous, la pension en Belgique, on y croit moyennement sur le long terme. On pense que le système des pensions, ça va peut-être plus très bien fonctionner pour quand on sera vieux. Et on ne se voit pas profiter du système des pensions plus tard. Et donc voilà, on s'est dit, ben tant qu'à pas avoir de pension, profitons notre vie à fond. Et puis on ne sait pas où ça va nous mener. Donc oui, on a cette idée du Japon loin. Maintenant, on va peut-être se plaire ailleurs. Et puis on s'y installera. C'est vraiment cette liberté d'esprit de pas avoir de contraintes de retour, de pas avoir de contraintes de qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on remette en place pour le futur. Non, voilà, là on se lance dans l'inconnu, mais on se sent tellement plus libre.
Tu m'étonnes. Ouais, mais c'est beau ce projet de dire c'est aussi ce qu'on veut montrer à nos enfants. Et pour moi, ça a été très important aussi ces 4 mois de montrer à mes filles qu'il y avait d'autres manières de vivre, qui j'espère elles vont garder en elles pour se décloisonner l'esprit. Parce que c'est vrai que nous, parfois, c'est un peu dur. On est dans un système, il y a ces règles, on est habitué depuis toujours. Et puis, c'est vrai que quand tu pars au loin comme ça, tu les regardes autrement, tu dis, ouais, tout compte fait, c'est des murs de papier. Hein? C'est rien du tout, en fait. C'est des prisons qu'on se construit soi-même. C'est des obligations qu'on s'impose. C'est du vent. Et avoir cette liberté d'esprit, de voir qu'on vit tout à fait autrement ailleurs, que ça, c'est important pour moi. Et j'aime bien. Et c'est pour ça que dans tous les podcasts, même si c'est des podcasts où normalement les enfants n'ont pas grand-chose à voir, je veux dire, elles sont les bienvenues, mais je veux dire, c'est pas un podcast qui est destiné aux enfants. J'aime que mes enfants posent des questions. Parce que comme ça, à chaque épisode, je leur montre, tiens, il y a cette personne qui vit de telle manière. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Et c'est chouette parce que maintenant, je veux dire, elle reconnaît certaines photos. Elle dit, ah, c'est les photos de Jean-François. Et puis après, c'est... s'engueuler l'autre jour, toutes les deux, et puis elles disent « Oui, eh ben ça, M. Sarano, il serait pas content. » Mais M. Sarano, ils ne l'ont jamais vu, mais elles savent que c'est lui qui nage avec les cachalots. Mais c'est génial, quoi, parce qu'elles ont une vision, quand elles ont été quelque part, mais c'est vrai que la Birmanie, ça leur dit très bien ce que c'est, le bouddhisme, elles sont ouvertes à plusieurs spiritualités, à plusieurs systèmes politiques, à plusieurs manières de vivre. C'est vraiment super enrichissant, et je trouve que c'est la plus belle éducation qu'on peut se donner aux enfants. Mais toi, l'éducation des enfants, du coup, tu la prends en charge totalement, et déjà depuis quelques mois, voire années.
Oui, alors ça fait 2 ans. Ben, après notre voyage de 3 mois en Asie en 2019, elles sont retournées à l'école, mais on s'est dit, les contraintes, mais on n'aime pas trop les contraintes, c'est dit que la contrainte de devoir de ne pouvoir voyager que pendant les congés scolaires, ça ne nous convenait pas trop. Et donc, je me suis renseignée sur l'école à la maison, qui est tout à fait possible en Belgique. Hein, donc, il y a une obligation d'instruction, mais il n'y a pas une obligation d'école. Et donc, au mois de septembre, je les ai inscrits à l'école à la maison. Et donc, comme ça, ben, à partir donc dès 2020, on a fait l'école à la maison, hein, bien avant le confinement, avant que tout le monde soit obligé de faire l'école à la maison. Nous, on le faisait déjà. Et c'est génial. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû le faire pendant le confinement, à qui ça a plu aussi, de pouvoir vivre 24 heures sur 24 avec les enfants. Alors, il y en a qui diraient « Oh mon Dieu !» Mais nous, non, nous, on a adoré ça. Déjà, quand on partait en vacances, on aimait bien être avec elles. Et là, vraiment, pouvoir leur donner cours, grandir avec elles, enfin, les voir grandir, c'est génial. Oui, je dis grandir avec elles, c'est un peu un lapsus révélateur, parce que j'apprends tellement de choses avec elles et j'apprends tellement de choses en leur donnant cours aussi. Alors, donner cours, oui, on se dit « tout le monde n'est pas prof ». Bon, si ce n'était pas mes enfants, je ne sais pas si j'y arriverais. Maintenant, le fait que c'est mienne, j'apprends en même temps qu'elle, je revois la matière en même temps qu'elle et finalement, je ne leur donne pas cours. Je leur apprends à apprendre et on apprend ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette.
Oh là là, qu'est-ce que ça me parle, ça. Qu'est-ce que ça me parle. C'est vrai, et j'entendais une prof qui disait aussi apprendre à apprendre. Tu m'avais dit qu'elles avaient même commencé à apprendre le japonais et qu'elles en étaient plus loin que toi.
Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que je leur ai trouvé une application, parce que j'aime bien quand c'est des langues étrangères, qu'elles soient vraiment immergées avec le bon accent et tout ça. Si moi, je leur donne japonais, j'ai jamais vu de japonais, je vais avoir un très mauvais accent. Donc, je leur ai trouvé une application qui était vraiment destinée aux enfants pour le japonais. Et elles ont avancé dedans. Et donc, oui, à un bout d'un moment, elles m'ont larguée parce que moi, je ne prenais pas le temps de le faire. Et donc, voilà, leur niveau de japonais est bien meilleur. Et alors, c'est ça l'avantage aussi de l'école à la maison, c'est qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. On ne doit pas suivre le programme, elles doivent avoir un certain niveau à certain âge. Donc, c'est comme ça que ça se passe en Belgique. Et donc, elles passent des évaluations à 8-10 ans, et puis après, ici, le CEB. Elles ont réussi les évaluations, donc ça, c'est bon. Et en plus de ça, elles peuvent apprendre d'autres choses. Et quand on apprend à la maison, on a besoin nettement moins d'heures pour apprendre, vu que c'est vraiment des cours particuliers. Donc, quand elles connaissent une matière, elles ne doivent pas l'approfondir, c'est bon, elles peuvent avancer. Si elles ne comprennent pas quelque chose, on prend le temps vraiment de le comprendre. Et donc, elles avancent beaucoup plus vite que quand elles étaient à l'école. Et donc, elles ont plein de temps pour apprendre d'autres choses. Donc, Olivia, elle s'est mise à tout ce qui est codage, scratch, etc. sur PC. Elle adore, elle se met maintenant un peu à la photo. Elles ont voulu apprendre le japonais, donc elles ont le japonais. Elles parlent déjà donc toutes les deux, enfin les deux grandes parlent anglais quasi couramment. Et puis, en termes d'autres cours, cette année, elles m'ont demandé d'apprendre le latin. Ben, c'est très bien. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a aussi le latin à l'école. Donc, elles ont commencé le latin. Et voilà, elles apprennent ce qu'elles ont envie d'apprendre.
Elles ont décidé d'apprendre le latin.
Oui, je ne sais pas d'où est venue l'idée, peut-être du fait qu'on allait à Pompéi, est-ce que c'est là qu'elles se sont dit « Ah, ce serait chouette d'apprendre le latin ». Je ne sais pas, d'où est venue l'idée, mais elles sont très curieuses des choses. Et puis, à mon avis aussi, le fait d'avoir entendu qu'à l'école, en secondaire, on apprenait le latin, ça les a peut-être attirées. Et donc voilà, et là, elles accrochent vraiment bien au niveau du latin, on avance. Là, j'ai trouvé un manuel qui est de l'immersion en latin, donc un peu comme on apprend une langue étrangère maintenant par immersion, ben là c'est un manuel d'immersion en latin. C'est ça l'avantage de l'école à la maison, c'est que j'utilise le matériel que je veux. Et donc, les filles, elles peuvent avoir des matériels beaucoup plus ludiques que ce qu'on avait à l'école. Et ici, les filles, elles aiment vraiment bien, et c'est des petits textes, et c'est facile, et petit à petit, le vocabulaire rentre, sans devoir étudier des listes de vocabulaire, sans devoir étudier de la grammaire vraiment proprement parlée. Mais elles apprennent très bien parce que, voilà, je le vois bien, elles en ont discuté avec leur cousin qui est en première secondaire, qui lui apprend le latin. Elles ont fait des jeux avec lui où essayer de deviner des mots, etc. en latin. Et ça marchait. Donc, elles n'étaient pas en décalage par rapport à quelqu'un qui était à l'école, malgré qu'elles n'utilisent pas les mêmes méthodes.
En plus, c'est un peu tôt pour le latin. Donc, elles n'étaient pas en décalage par rapport à quelqu'un qui en est un peu plus loin.
Il faut savoir que, donc, Olivia, elle a 10 ans. Et avant de partir en voyage, on a déjà voulu passer son CEB. Enfin, elle se sentait prête à le passer. J'avais fait des CEB des années antérieures.
On va juste dire, pour les Français qui nous écoutent, le CEB, c'est ce qu'on passe à 12 ans, normalement. Voilà.
Donc, c'est le certificat d'études de base. Donc, c'est le certificat des primaires. Et en Belgique, à partir de 10 ans, quand on est à la maison, on peut le passer. Donc, j'ai fait les anciens certificats aux deux filles, à celles qui ont 8 ans et 10 ans. Et en fait, elles ont le même niveau scolaire. Je leur donne les mêmes cours. Je ne me fatigue pas à chercher. Il y a juste de temps en temps, il y en a une qui approfondit certaines matières parce qu'elle aime plus et l'autre. Et donc, elles y arrivaient toutes les deux. Donc, Olivia m'a demandé pour le passer, vu qu'elle avait 10 ans. Donc, elle l'a passé l'année passée et elle l'a très bien réussi, largement au-dessus des moyennes belges. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et Jill, par contre, comme elle n'a que 9 ans, ben, elle ne peut pas encore le passer. On doit encore attendre une année pour qu'elle puisse le passer. Mais donc, elles ont clairement un bon niveau scolaire. Maintenant, j'ai peut-être de la chance aussi d'avoir des filles qui sont assez studieuses et qui travaillent quand même assez bien. Mais je pense que le fait de voyager et de faire l'école à la maison fait aussi qu'elles apprennent beaucoup plus de choses que si elles étaient restées à l'école où elles seraient toujours dans leur année. Et je ne pense pas qu'elles auraient appris beaucoup plus. Parce qu'une fois qu'on rentre à la maison, il y a les devoirs, il y a les activités extrascolaires et puis après, on n'a plus de temps. Voilà, et c'est ça. Le temps, c'est vraiment un élément aussi qui leur manquait dans leur ancienne vie. Souvent, elles me disaient, quand elles étaient à l'école, oui, on n'a jamais le temps de lire. Ben non. Quand un enfant revient de l'école, il a ses devoirs, puis finalement, il va jouer avec les copains, il fait les activités extrascolaires et puis il ne lit pas. Nous, on a des filles qui adorent lire et donc maintenant, elles ont vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour lire et en lisant, elles apprennent aussi énormément de choses.
Waouh. C'est vrai que j'étais étonnée, moi, quand on préparait un petit peu le voyage, notre voyage de 4 mois, nous, avec la professeure. On avait dit, oui, il faut donner combien d'heures par jour, etc. Des heures. Elle dit, mais non, fait deux fois une demi-heure maximum par jour. La prof même qui s'en rend compte, tu dis, attends, il passe combien de temps à l'école? Et donc, avec deux fois une demi-heure par jour, c'est plié. Alors, du coup, en Birmanie, j'avoue, on n'a pas fait l'école du tout, rien du tout. Et on s'est rattrapés comme des malades, c'est nous qui nous sentions coupables. Après, on a fait un petit peu aux Philippines. Mais c'est vrai que la prof nous a dit, mais prenez n'importe quoi, hein, des bâtons et des coquillages sur la plage. Je dis, oh, ça se sent pas, ça. Hein. Et puis, ou compter des trucs sur la route, ou enfin voilà, on devinait. C'était des petits jeux dans la voiture en Birmanie quand on s'embêtait, et puis c'était assez sympa. Sauf que voilà, la plus petite est très mauvaise perdante, donc elle faisait la moitié du jeu, puis elle boudait. Ça, c'est dans la cause que ça va se passer. mais c'est vrai que ça prend pas tellement de temps l'école à la maison. Hein. Tu me disais 3 demi-journées par semaine, c'est ça?
Oui, voilà, à peu près. Mais en fait, on ne planifie rien. Donc, quand on a du temps, on le fait. Et des demi-journées, parce que c'est plutôt 2 heures chez nous. Nous ne sommes pas des grands travailleurs. Maintenant, il faut savoir qu'on travaille quasi... Enfin, 2 heures vraiment de formel où on se met à table devant un cahier. Mais on travaille quasi 24 heures sur 24 parce qu'au fait, on discute énormément avec les enfants. En effet, en voyage, quand on fait de la randonnée, on calcule les kilomètres, on se fait des petits jeux comme ça. Parfois, on s'amuse même à réviser les conjugaisons en marchant. Elles lisent énormément, donc pendant ces temps-là, elles apprennent aussi. Puis moi, je leur fais aussi de la lecture à voix haute sur des thèmes variés, sur la science, etc. Donc, ça leur permet aussi d'engranger des informations. Et puis, elles discutent aussi. Elles vont beaucoup à la rencontre des gens. On a des filles qui ne sont pas du tout timides. Donc, elles vont parler. Elles vont voir quelqu'un qui fait une activité. Elles vont leur poser des questions. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Comment ça fonctionne? Et elles vont écouter et vraiment apprendre. Et donc, finalement, elles apprennent aussi plein d'autres choses que ce qu'il y a dans les manuels. Donc, je dirais plutôt l'apprentissage chez nous, on apprend toute la journée. Voilà.
Waouh. Et toi, tu leur apprends la caméra vidéo? Ou tu leur apprends à être devant ou derrière?
Je leur apprends que si il y a quelque chose qui passionne, on peut y arriver via Internet, on peut y arriver via YouTube. Il y a plein de manières. Bah, par exemple, la vidéo, on n'avait jamais fait de vidéo, j'ai jamais touché un appareil photo il y a encore 5 mois. Bah, voilà, maintenant, je leur montre, on fait le check de la vidéo ensemble, on vérifie le son. Bah, je les pousse jamais, je laisse faire et puis en fait, elles s'accrochent à moi et elles se disent, bah, tiens, ça, ça a l'air chouette. Oh, papa, comment est-ce que tu fais ça? Ce que j'aime bien aussi, c'est faire l'ignare de l'anglais. Donc, je comprends un tout petit peu l'anglais, je le parle un tout petit peu. Je sais me faire comprendre quand c'est nécessaire. Mais donc, quand on est en public, je fais celui qui est bête en anglais. Donc, elles sont obligées de parler pour moi et de me traduire. Quand on va dans un musée, bah, voilà, je vais au musée, je vais acheter des tickets. Bah, elles sont obligées, elles doivent et non seulement traduire ce que moi je dis, mais également traduire ce que l'autre personne dit et faire la triangulation comme ça. En fait, elles y prennent goût et c'est là où je me rends compte qu'elles comprennent l'anglais, qu'elles le parlent couramment, c'est que quand elles prennent contact avec quelqu'un, qu'elles communiquent avec quelqu'un en anglais, ben en fait, c'est leur seconde langue, elles le comprennent parfaitement. Et c'est assez fantastique, voire magique, de se dire, ben tiens, un enfant maintenant, le mien peut parler dans 2 langues. Et donc, je suis très honnête, je ne m'occupe pas du tout de l'apprentissage de mes enfants. C'est le royaume de Virginie, c'est sa passion. Mais d'un œil extérieur, ben, c'est mes enfants, mais je suis assez fier en fait de ce qu'elles arrivent à découvrir. Et en fait, toutes ces petites choses me disent, ben oui, on est dans le bon canevas, on est dans la bonne lignée, parce que si c'était foireux, si ça ne fonctionnait pas, ben, moi je suis assez terre à terre. Donc j'aurais dit, ouais, ici il faut changer le truc, ça ne fonctionne pas. Je suis vraiment content de la manière dont ça fonctionne et la manière dont on peut encore la faire progresser. Moi qui suis un enfant unilingue, je trouve ça génial, quoi.
Ah, c'est super, c'est super. Mais alors voilà, j'ai une question de ma première petite fille.
Est-ce que c'est pas si dur de s'occuper des enfants?
Alors, c'est vrai que moi aussi, je me suis demandé, mais tu les as tout le temps, mais comment tu fais, même pour aller faire des courses, pour avoir un peu de temps pour toi, comment ça se passe?
Alors, c'est clair que ce n'est pas toujours simple. 24 heures sur 24, surtout que moi, ben déjà, avant le voyage, je les avais déjà tout le temps avec moi. Donc, je me suis dit, ouf, Benoît va arrêter de travailler, je vais avoir un peu de temps à moi. Ben, au fait, pas vraiment, vu qu'on est tout le temps en voyage. Mais on commence à... En fait, on discute beaucoup avec Benoît, donc on s'accorde. Et on essaye qu'à un moment, chaque jour, il y en a un qui prenne vraiment les quatre. Et comme ça, l'autre est vraiment tranquille, tout seul. Maintenant, il faut aussi les grandes, elles commencent à s'autogérer. Hein. À 9 et 10 ans, elles font beaucoup de choses toutes seules de leur côté. Et parfois, c'est elles qui s'occupent des deux plus petites. Donc, on a aussi du temps pour nous. Sincèrement, la difficulté est largement contrebalancée par le bonheur d'être assise en permanence. Alors moi, justement, je pense que j'aurais du mal quand je vois certaines familles qui, finalement, ils voient très peu leurs enfants. Ben, ça, c'est pas pour moi. J'ai connu ça dans le temps, au début, quand Olivia et Jill sont nés. Je travaillais dans une grosse boîte et je les voyais très, très peu. Même le matin, elles dormaient encore quand je partais. Je revenais le soir, elles dormaient déjà. Non, ça, je ne veux plus vivre. Et finalement, la vie est beaucoup plus facile assise. Et puis, on s'entraide, c'est ça aussi. On leur a fait comprendre, on n'est pas des parents et des enfants, on est une famille. Et donc, on s'entraide, on fait les choses ensemble. Et même pour le voyage, que ce soit pour trouver la route, les directions, charger en eau, etc. Toutes les petites contraintes de la vie, on les vit assises, on ne les vit pas que nous deux, avec des enfants qui sont juste là, observateurs. Alors oui, on a des enfants qui nous aident énormément. Ça ne se fait pas comme ça dans toutes les familles. Je sais que quand elles en discutent avec des copains dans les plaines de jeux, les copains disent « Oh, tu fais ça à la maison, toi tu fais la vaisselle ». Ben oui, nos enfants font la vaisselle, nos enfants nous aident à faire les machines, ils nous aident pour tout. Ben, je pense que c'est aussi un apprentissage à la vie et ce n'est pas vraiment vécu comme une contrainte vu qu'on le fait tous ensemble. Et elles apprennent, elles s'entraident, elles apprennent aussi à aider pour les deux petites, donc ça se passe plutôt quand même pas mal.
Trop génial. Je vais pleurer, c'est trop beau.
Oui, je voudrais juste dire, l'ambiance familiale, on dit toujours parents stressés, enfants stressés, je ne le vivais pas au début, donc je ne comprenais pas au début ce que c'était. Je me rends compte maintenant, moi je suis le plus... Je suis le plus colérique. Alors moi, si ça ne va pas...
Sanguin.
Voilà. Si ça ne va pas, c'est dit tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui tarde. Mais je me rends compte, au début, j'étais très énervé, très impulsif. Et au final, je me suis dit, tiens, et si tu tentes de faire des journées sans t'énerver, sans te fâcher et tout ça, est-ce que ça, il va y avoir
un
impact sur... Il y a un impact. Il y a un véritable impact. Je me rends compte que mes enfants sont calmes en société. Parce que nous sommes calmes en société. Si maintenant nous étions des gens bouillants, sanguins en permanence, ça se résulterait directement sur les enfants. Moi, par exemple, mes enfants m'apprennent à me calmer.
Comment ?
Le fait qu'elles soient... On est assises dans un camping-car de 10 mètres carrés. Le fait qu'elles soient calmes à l'intérieur, ben, c'est un apprentissage. On a eu notre neveu qui est venu pendant 2-3 jours ici. C'était un enfer sur Terre. Parce qu'en fait, lui, c'est un enfant seul. Et il ne comprend pas cette contrainte de... Si moi, je fais du bruit... Si les 5 autres font autant de bruit que moi, quel capharnaüm ça va être. Et en fait, nos enfants ont compris que quand on vit à 6 dans le camping-car, le calme amène le calme. Et donc, si elle veut du calme, elle aura du calme. Et donc, c'est extraordinaire, en fait. C'est tous ensemble qu'on apprend à gérer cette ambiance familiale. Alors ouais, les gens disent « Ouais, à 6 dans le camping-car », ben moi, je dis « Tous ensemble, c'est possible. » Mais ouais. Seulement tous ensemble.
Et qu'est-ce qui se passe justement? C'était une des questions, c'est des petites frictions, etc. Comment est-ce que vous gérez ça?
Je crie.
Ça marche toujours, oui, ça va.
Oui, pour l'instant, ça fonctionne encore.
Non, il crie, mais ça marche pas des masses, donc non.
Mais attends, j'ai juste coupé. Hier, on a eu un coup de téléphone du parrain de Yoko, donc qui nous a appelé, qui nous a remercié, il nous a dit, vous avez, en fait, il y a une semaine, on a été manger chez lui, qu'on est revenu en Belgique, on est de passage, donc on était manger chez lui, on a débarqué à 6. C'était extraordinaire, jeu de société, calme, Lego et tout ça. Hier ou avant-hier, il a reçu un ami à lui avec 2 enfants. Il m'a dit que c'était un chaos général. Et en fait, on se rend compte que l'éducation ou le fait qu'on soit assis, qu'on soit calme, que ça joue énormément. Il nous a téléphoné pour nous remercier, pour nous dire que vous avez des enfants extraordinaires. ça fait du bien, c'est chouette d'entendre ça aussi, de se dire, bah, tiens, on a peut-être encore réussi autre chose, c'est que nos enfants sont normaux, éduqués en société. C'est un plus.
Voilà.
Ouais, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ne sont pas du tout désociabilisés, tu disais. Et c'était une de mes questions, c'est est-ce que vous avez remarqué des changements chez vos enfants? C'est vrai que sur les 4 mois, nous, on avait déjà remarqué beaucoup, point de vue du calme, je crois que ça leur fait du bien d'être avec leurs parents aussi, mais j'ai hâte d'avoir votre feedback.
Alors, point de vue du calme, mais aussi surtout sur leur manière d'être. Par rapport à quand ils étaient à l'école, ils se prenaient beaucoup la tête pour des bêtises. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus bienveillants les uns vers les autres. limite, ils seront même choqués dans les plaines de jeu de voir parfois les comportements d'autres enfants, alors que c'est des comportements qu'on voit très souvent dans les cours de récré, etc. Eux, ça les choque parce qu'ils ont vraiment une bienveillance les uns envers les autres, envers les plus petits aussi. Le fait d'être à quatre, je pense que ça aide. Un enfant tout seul n'aura pas cette occasion-là. Un an, en termes de sociabilisation, elles sont hyper sociables et elles se font des amis très, très vite. Elles vont vers les gens, mais alors pas que ceux de leur tranche d'âge. C'est ça qui est bien, je pense, du fait de voyager en famille. C'est qu'elles vont vers les plus jeunes comme elles vont vers les adultes. Elles sont vraiment très ouvertes. Voilà. Maintenant, tout n'est pas toujours rose. Parfois, il y a des frictions aussi entre sœurs. Mais c'est ça l'avantage d'avoir quand même des espaces séparés dans le camping-car, chacun dans son coin. Et puis, chez nous, un bon truc, c'est vous allez lire une demi-heure. Et hop, elles adorent lire. Tout le monde se recalme pendant une demi-heure. Et puis après, on est reparti comme avant, dans le calme. Ou aller jouer dehors, ça en fait beaucoup aussi. Quand nous deux, on en a un peu marre du bruit, que ça devient un peu trop, l'avantage d'être dans des pays chauds, c'est qu'on leur dit allez jouer. Et aller à la plaine de jeu ou quoi, ou une grande randonnée, ça calme tout le monde.
Ce qu'on cherche beaucoup en voyage avec le camping-car, c'est les endroits où, quand on stationne, elles sont en sécurité. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute. Et c'est des plaines de jeux, c'est des parcs, c'est des forêts, c'est des parkings de début de randonnée. Ben, ça fait une pièce supplémentaire, en fait, dans la maison. C'est la pièce de, ben voilà, on prépare à manger. Je m'entends encore dire, allez, hop, tout le monde dehors. Elles le savent, hein, c'est dehors. Hein. Et donc, pendant un quart d'heure, une demi-heure, c'est une cour de récréation nouvelle chaque jour. Parce qu'elles doivent découvrir l'endroit où elles sont et se rendre compte, ah ok, il n'y a pas de plaine de jeux, mais il y a un arbre. Et donc, ouais, la vie en camping-car à 6 avec du beau temps dehors, parce que quand il pleut, c'est pas si chouette que ça. C'est agréable, en fait, c'est vraiment encore une pièce, c'est un jardin d'enfants supplémentaire différent chaque jour.
Ah oui, on faisait ça aussi en Nouvelle-Zélande, on s'arrêtait que quand on avait trouvé une plaine de jeux pour cuisiner, et puis alors du coup, l'éclate.
Ouais, et au Danemark, par exemple, ils ont des plaines de jeux merveilleuses, énormes, on pourrait rester, c'est un Walibi géant.
Le Danemark, je crois que c'est un pays idéal pour élever des enfants.
Hein. Oui, le Danemark, ils sont...
Oui, pour les camping-cars, c'est vraiment très adapté. Il y a des grandes zones de pique-nique. Il y a des toilettes à chaque zone de pique-nique. Il y a les plaines de jeux quasi dans chaque village, des immenses plaines de jeux. Et alors, il n'y a pas grand monde. Je pense que c'est une question de population, de densité de population. Mais il y a vraiment moins de monde dans les plaines de jeux ici. Hier, on a été dans une plaine de jeux à Bruxelles. C'est rempli. C'est pas ça, hein. Les enfants étaient contents, elles ont pu jouer au foot avec d'autres, mais au Danemark, on a vraiment la paix, la tranquillité, et puis les enfants, ils peuvent jouer en toute sécurité, on n'a vraiment pas d'inquiétude, et donc ça, c'est vraiment chouette. Maintenant, il faut savoir qu'on ne cherche pas toujours non plus une plaine de jeux, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les enfants, ils arrivent vraiment à jouer avec deux morceaux de bois, et donc rien qu'un petit tas de gravier, ça peut leur suffire pour jouer pendant des heures, donc voilà.
Merci à NGRCS12 pour son commentaire sur Apple Podcast. Tu me permettras que je t'appelle NG. Donc NG nous écrit « Plus que recommandé, un podcast qui nous fait vraiment du bien, nous relaxe et nous donne plein d'idées, avec une très noble mission bonus de planter des arbres. » Alors merci à toi NG, à t'écouter et d'avoir pris le temps de faire ce partage. Savoir que les épisodes plaisent et te sont utiles, c'est le carbu du podcasteur. Vos commentaires sont toujours les bienvenus sur Apple Podcast ou sur les pages des épisodes sur storyfic.com. Et si tu as des envies de certains contenus, les suggestions sont les bienvenues aussi. Envoie-moi un DM sur Insta, Facebook ou Twitter. Je réponds à tout.
Oui, justement, ça j'allais vous dire, c'était une des grandes choses que j'avais été admirative. C'est donc, oui, comme tout le monde, vous avez quand même accumulé un petit peu dans une maison le parcours classique. Et puis, vous avez commencé à vous désencombrer. C'était déjà dans le but du voyage ou simplement pour vous simplifier la vie?
Alors, c'était vraiment ça, simplifier la vie. Donc, pas du tout dans le but du voyage, c'était simplifier la vie, simplifier les tâches de ménage. Parce que quand on est assis, il y a beaucoup de lessive, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de là, il y a beaucoup de crasse. Surtout qu'on avait déménagé dans une nouvelle maison qui était très grande. Donc, si je devais commencer à l'encombrer, pour le nettoyage, ça allait me prendre des heures. Donc, c'était surtout... ouais, je pense qu'on avait déjà cette idée d'avoir un sentiment de liberté, la liberté dans la tête aussi. Et moins on a d'objets, plus on se sent libre. On a commencé déjà en vacances à ramener moins d'objets, moins de souvenirs. Parce que on s'est rendu compte que ça servait à rien, à part s'encombrer. Et donc voilà, la maison, on a commencé à vider, le linge, on a commencé à vider. Et puis un jour, on s'est décidé, on va arrêter de repasser le linge. Parce que voilà, c'est une tâche qui ne nous paraissait pas indispensable. Et puis on n'a pas beaucoup de vêtements, moins de grosses lessives parce qu'on accumule moins, on lave plus souvent. De toute façon, assise, c'était une lessive par jour, il n'y avait pas le choix. Et donc, voilà, autant qu'elle ne soit pas trop grosse, comme ça, ça n'avait pas trop de travail. Et puis, on a commencé à disperser déjà les tâches à la maison. Donc, moi, je faisais le linge, je repliais, chacun avait sa petite manne, chacun prenait sa manne en bas, allait la ranger dans sa chambre, chacun faisait ses affaires comme ça. Donc là, on a commencé déjà à simplifier notre manière de vivre. Mais c'est pour tout, pour la cuisine, moins de vaisselle fait qu'on lave directement les affaires. Si on a beaucoup de vaisselle, on laisse accumuler dans l'évier. Voilà, c'est le genre de choses qui changent. Et donc, on avait déjà beaucoup moins de choses dans notre maison. Donc, quand on a dû partir en camping-car, on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de choses. Voilà, mais heureusement qu'on n'avait pas une maison comme avant, comme plusieurs années auparavant, où là, c'était vraiment rempli de jouets, etc. Là, on avait déjà beaucoup éliminé. Les jouets, quand les filles en avaient plein, elles jouaient très, très peu avec leurs jouets. Quand on a changé de maison, on leur a dit... On a sorti chaque catégorie de jouets, on a vraiment trié par catégorie, on leur a dit ben, prenez chacune vos trois préférés. Tout le reste, on a donné, et au fait, on s'est rendu compte qu'après, elles jouaient tout le temps avec. Et elles ont vraiment pris un autre attachement aux objets, et elles y prennent beaucoup plus soin. Bon, le plus dur, ça a été de convaincre la famille d'offrir un peu moins de jouets, parce que c'est, au fait, les jouets venaient surtout de la famille.
Ouais, mais on parle pas, moi, je vois Saint-Nicolas et Noël arriver, j'ai peur. Mais vraiment, je panique en me disant, mais... Au secours, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Je dis en plus, payez-nous un abonnement pour quelque chose ou quoi? Payez-nous des expériences
voilà,
à vivre.
Ouais. Mais là, on était faire la balade avec les ânes, avec François. C'est une activité qui a été offerte pour...
C'est par la marraine de Gilles. Donc voilà, c'était pour sa Noël de l'année passée.
Mais il a fallu du temps pour que les mentalités, surtout chez nous, changent. Et nous, c'est quatre enfants, donc c'est quatre anniversaires, quatre Saint-Nicolas, quatre Noël.
Mais maintenant, ils ont compris. Franchement, la famille à ce niveau-là... C'était un travail de plusieurs années, mais maintenant c'est bon. Et puis aussi, il y a eu tout ce qui était gros cadeaux. Quand nous, on a décidé qu'on ne les gardait plus parce que de toute façon, les filles ne jouaient pas avec, on les a renvoyés dans la famille. On leur a dit, voilà, vous l'avez offert. Donc, on vous le rend si vous le souhaitez parce qu'on ne va pas le jeter, on ne va pas le donner. C'est vous qui l'avez offert. Et puis après, ils disent, ah oui, mais nous, on a une petite maison. Ah ben oui, ben... Et donc voilà, et petit à petit, je pense que ça les a fait réfléchir. On se dit, ah oui, mais en fait, ça ne sert à rien d'offrir des trop gros trucs. Et puis eux aussi, si ça retourne à l'envoyeur, ben, ils se disent mince. Et donc voilà, donc moins de jouets, ce qui, je pense aussi, était une étape indispensable avant le camping-car. Parce que maintenant, le camping-car, le nombre de jouets a encore diminué. Voilà, mais les filles ont choisi vraiment leurs préférés. Et il y en a qui nous ont dit, on a eu des commentaires en disant, oui, mais pour les enfants, devoir se détacher de tous leurs jouets, ça a dû être dur. Mais en fait, pas du tout, parce qu'ils n'ont plus la même relation à l'objet en se disant, j'ai besoin de beaucoup pour être content. Non, ils ont besoin de leurs trucs préférés avec lesquels ils aiment vraiment bien jouer. Et puis, quand on était partis en Asie 3 mois avec les sacs à dos, ils avaient chacune pu prendre un doudou, pas grand, un petit, et c'était tout. Et quand on leur pose la question maintenant, est-ce que ça vous avait manqué? Non, à aucun moment, elles n'ont réclamé les jouets. Et alors, quel plaisir pour elles, quand elles sont en voyage, d'arriver dans une nouvelle maison, dans un nouvel endroit, où il y a l'un ou l'autre jouet qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles n'ont plus eu depuis longtemps. Elles sont super contentes d'y jouer. Donc, finalement, elles en profitent deux fois plus que si elles avaient toujours leurs jouets avec elles. Elles n'auraient pas ce lien-là aux objets quand elles arrivent quelque part à vouloir vraiment découvrir, jouer avec les autres enfants, vu que de toute façon, elles auraient l'habitude.
Oui, tout à fait. Et moi, c'est vrai que je me rends compte avec les enfants, c'est aussi la comparaison. J'ai ma fille aussi, j'ai mis, regarde, chaque fois que tu vois un truc, tu le veux. Donc on ne pourra jamais te satisfaire. Donc, essaie d'aimer ce que tu as. Mais c'est dur aussi que c'est... Ah oui, mais j'ai été chez une copine, elle a ça.
Et pression
j'ai...
sociale.
Oui, voilà. C'est terrible.
C'est un apprentissage. C'est expliquer aux enfants, c'est leur montrer des exemples. Alors, au début, c'est terrible parce que le fossé est grand entre la cour de récréation. Notre avantage, c'est qu'elles étaient, c'était l'école à la maison. Donc, elles n'avaient pas une vue globale sur ce qu'un enfant autre avait, sur les dernières tendances et tout ça.
Ça, je crois que ça aide vraiment.
Ça nous a sauvés pour certaines choses. Maintenant, elles arrivent. Ben, par exemple, elles sont arrivées chez vous ce matin. Il y a 2-3 jouets. Elles vont être pleinement satisfaites pendant 1 heure ou 2, mais elles n'auront pas la nécessité de le ramener dans le camping-car et autres.
Elles ne vont pas pleurer demain parce qu'elles ne l'ont plus, quoi.
Non, nous, les gens nous disent « Ah oui, mais le téléphone, comment est-ce que vous faites sans le téléphone ?» Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de téléphone, c'est normal chez nous. En fait, je pense que le plus difficile, ce n'est pas forcément d'expliquer aux enfants, c'est la pression sociale, ce sont les autres.
Ouais.
En fait, ce n'est pas nous, ce sont les autres qui disent « Oui, mais comment est-ce que vous faites pour faire ça ?» C'est peut-être même plus facile il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand il n'y avait pas Internet. Au moins, on ne voyait pas ce que les autres faisaient. Maintenant, on a cette pression sociale qui dit...
Mais pour les adultes aussi, je veux dire, la pression sociale, c'est affreux. Quoi. Moi, une partie, je trouve, de la liberté du voyage, c'est de ne plus se comparer en permanence en disant « Ah oui, mais c'est vrai que mes vêtements sont démodés parce que j'en ai rien à faire de la mode. » Et ça ne me tracasse pas jusqu'à ce que tu arrives chez des gens qui sont tous « Ah oui, c'est vrai, ça ressemble au magazine que j'ai vu, tu vois. » Et même pour nous, c'est compliqué. Donc, mais parfois, tu vois, tu peux vivre très simplement. Et voilà, moi, j'aime bien un jardin sauvage, etc. Jusqu'au moment où tu regardes le jardin du voisin, tu es un petit peu embêté. Ta voiture, c'est une petite voiture, tu t'en fiches. Sauf si tout le monde dans ton quartier a une plus grosse bagnole, tu vois. C'est dur de résister à ça. Les réseaux sociaux sont champions pour montrer aussi la vie de tout le monde, ce sont plus beaux jours. Et C'est vraiment un challenge. Donc, c'est chouette de faire un peu sortir les enfants, de leur faire vivre quelque chose qui les met en valeur aussi, d'ailleurs. Hein, donc,
Et la preuve qu'elles comprennent, c'est qu'on a été en mariage il y a 2 ans maintenant. Et l'un des invités était habillé comme un voyageur. Alors, les petites me disent, tiens, au lieu de faire la réflexion, oui, t'as vu, lui, il n'est pas bien habillé, il n'est pas habillé comme en mariage. Elles se disent, ah ben oui, c'est sûrement un voyageur qui n'a pas dans son sac à dos un costume cravate. Mais il est là, et en fait, sa présence est plus importante que son uniforme, que son déguisement. Et c'est là que ce sont toutes ces petites choses qui...
J'aime bien, t'as dit déguisement plutôt que costume. Parce que c'est vrai, finalement, c'est tous des déguisements sociaux, c'est des symboles de pouvoir, ou c'est des symboles de...
Oui,
c'est vrai, le costume, c'est... il y en a qui disaient, d'ailleurs, le costume cravate est un symbole de pouvoir. C'est bien se présenter, mais ça veut dire quelque chose, quoi. C'est un message, puisque sinon, on a juste besoin de corps et de se vêtir. C'est pour ça que les moines bouddhistes mettent juste ce vêtement unique, toujours le même, pour justement
essayer de se défaire de ça. C'est vraiment la présence qui est par rapport à...
Ouais, mais c'est vrai que pour les filles, il faut bien se rendre compte qu'elles ont, comme nous, en fait, on s'est mis au même niveau. On a peut-être 2 voire 3 tenues maximum. Mais ça fait déjà longtemps qu'elles vivent comme ça. Donc, à l'école, il y avait plutôt, oui, il fallait mettre des robes, etc., parce qu'il y a une copine qui a une belle robe. Mais les robes, au départ, elles en voulaient en voyage, et puis elles se sont rendues compte, parce qu'elles avaient pris quand même une robe avec elles, bah, la robe, c'est pas pratique du tout. Par contre, en parlant des technologies, pendant longtemps, quand même, elles me disaient, ouais, moi, les copines à l'école, elles ont un GSM. Elles faisaient aussi des activités extrascolaires, encore, même si elles étaient à l'école à la maison, elles faisaient encore du solfège, du piano, de la danse. Elles avaient des contacts avec les autres enfants. Elles disaient, ouais, ils ont déjà un GSM. Non, les GSM, il y en a, j'entends, il y a 8 ans, ils ont déjà un GSM. Mais on leur a dit, vous en aurez un jour où il y en aura une utilité. S'il y a un besoin, imaginons, on est dans un autre pays, vous allez dans une école et vous êtes loin et qu'il y a un besoin de pouvoir nous téléphoner, vous aurez un GSM à ce moment-là, il n'y aura pas de souci, quel que soit votre âge. Ce ne sera pas une question d'âge, ce sera plutôt une question de besoin, de nécessité. Alors évidemment, ça râlait un peu. Et puis, elles ont eu leur cousin, une autre amie qui a un GSM qui est venue à la maison, qui est tout le temps sur le GSM. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, Olivia est venue près de moi en me disant, oui, maman, t'as raison pour le GSM. Si on en avait un, on serait tout le temps en train de jouer dessus. Ça ne sert à rien. Et ben oui, voilà. Et si vous avez besoin d'aller sur un Google ou quoi, ben on a les ordinateurs, vous venez dessus, mais au moins, c'est un peu plus contrôlé. Moi, le GSM, je ne suis pas pour, parce que aussi, dans le côté contact, parce que y a les copines à l'école qui ont des GSM, elles font des groupes WhatsApp entre copines. Et pendant un moment, ma fille m'avait donné mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse échanger, parce que comme elle n'avait pas de téléphone. Et quand j'ai vu ce qui s'échangeait, je me suis dit, oh là là, finalement, je suis bien contente qu'Olivia n'ait pas accès à ça, parce que ça ne lui apportera rien, plutôt plus de la frustration par rapport à ce que les filles s'échangent entre elles. Et aussi, en termes de niveau, je me suis dit, non, moi, c'est vraiment pas ce que je souhaite pour mes enfants. Et alors, je lui ai pas caché, d'ailleurs. Je lui ai même montré les messages. J'ai dit, voilà ce qu'elles s'échangent. Est-ce que tu trouves ça vraiment intéressant? Maintenant, elle aurait peut-être me dire, ouais, moi, je veux absolument. Elle m'a dit, non, c'est bon, ça m'intéresse pas. Tu peux retirer ton numéro, quoi. Donc, voilà.
Waouh, quelle maturité, quoi. Parce que...
Donc, ouais. On n'est pas contre technologie, contre les matériaux, tout ça. On dit juste, il faut une utilité à chaque...
Ouais. Faut pas que ça devienne une perte de temps, parce que et elles se rendent compte aussi de l'importance du temps, même si on va se dire ils doivent avoir plein de temps en voyage, au fait il y a tellement de choses à découvrir qu'on a besoin de ce temps. et si c'est pour passer sa journée sur l'écran et ne plus communiquer même en famille ou avec l'extérieur, ne plus aller à la rencontre des gens qu'on croise, ça c'est vraiment dommage. Alors on passe à côté du voyage.
Totalement d'accord. Waouh. J'adore tout ce que vous dites. Hein. Oui, vous avez déjà un petit peu répondu, mais je voulais vraiment savoir comment ça se vit de prendre la décision de tout revendre. Ça a été quelque chose dont vous parliez régulièrement et du coup, ça a été une évidence un jour. Parce que, quand même, vous aviez fait construire votre maison, non?
Oui, alors on a fait construire la maison de nos rêves. 3 ans. En plus. Ça faisait 3 ans qu'on l'avait fait construire. Mais je pense que l'envie de voyager, de vivre autrement, d'être ensemble, parce que le problème, c'est grande maison, c'est un grand remboursement d'emprunt, 2 voitures parce qu'on a 4 enfants et qu'il faut aller travailler, etc. Et donc finalement, Benoît, on ne le voyait jamais, il travaillait tout le temps. Et donc, le fait de pouvoir l'avoir avec nous et de ne plus avoir la maison, ça s'équilibre à ce niveau-là. On s'est dit, OK, on peut vendre. Et quand on a décidé de la mettre en vente, ça s'est fait très vite. En une semaine, elle était vendue. Mais c'est clair que ça ne se fait pas si facilement. Il y a quand même un petit pincement au cœur.
Oui, c'est pour la très, très, très bonne cause. J'ai d'ailleurs, je pense souvent à toi, parce qu'on avait déjà fait un petit peu un petit truc de prépa quand vous étiez en Italie, parce que vous êtes déjà partie depuis le 1er septembre. Et... Vous aviez une règle super sympa pour vous désencombrer déjà avant le départ. Tu peux m'expliquer cette règle qui est... Parce que moi, je me dis aussi, mais Tu m'as tellement dit que c'était une tellement de liberté en plus de se désencombrer, j'en suis déjà persuadée, mais là c'est en train de me donner le coup de pied au derrière pour mettre le coup de boost. Déjà quand je regarde mon bureau, je dis, ouais, il y a des choses à éliminer ici, hein, clairement. j'ai déjà fait 3 fois le tour, hein, mais je vais encore le refaire. Mais donc ta règle pour savoir si on garde ou si on jette. Enfin, ou trier plutôt, ou donner, quoi, hein, pas jeter.
Voilà, au fait, il y a plein de petites règles, mais une des bonnes règles, c'est si ça coûte moins de 20 euros, que ça se... On sait le trouver en moins de 20 minutes ou même commander par Internet. Donc, c'est un peu la règle des 20, mais c'est une règle assez connue en minimalisme. Hein, je pense 3 fois 20, je ne sais plus exactement la formulation. Mais donc, moins de 20 minutes, moins de 20 euros. En gros, ben, ça ne sert à rien de le garder. Ça ne sert à rien de le garder au cas où. Je ne parle pas des choses qu'on a besoin, qu'on utilise tous les jours, évidemment. Mais par contre, si c'est le garder au cas où, ça n'a aucun intérêt parce que le jour où on en aura besoin, on sera le retrouver facilement. Ça coûte moins de 20 euros. Finalement, l'idée, c'est si on devait payer un lieu de stockage pour stocker toutes nos affaires au cas où, ça nous coûterait combien en location par rapport au fait de juste racheter le truc qu'on aura besoin. Une autre règle que j'ai beaucoup appliquée pour le tri de la maison, donc on a gardé le strict nécessaire qu'on avait besoin. Et puis après, le reste, c'est est-ce que quand je vois cet objet, ça me fait plaisir de le voir? Et au fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde, mais qui ne donnent pas cette petite étincelle, ce petit bonheur à regarder, notamment tout ce qui est dans les objets de souvenirs, les trucs de voyage. À chaque fois que je le vois, ça me donne envie de sourire. Sinon, non, ça ne sert à rien de le garder, parce que ça va être plus de temps pour prendre les poussières, ça va être plus de temps. Et aussi, une autre règle qu'on a mis beaucoup en place, c'est diminuer les surfaces.
Là, je pense à toi, tu m'en avais parlé. Et à chaque fois que je suis avec mon ordinateur, je dois le déposer quelque part. Il y a tout qui est pris parce que les enfants ont dessiné, les machins, les trucs. Et toutes les surfaces, c'est vrai qu'elles ont tendance à s'encombrer.
Voilà, plus on a de surfaces planes, plus on met des choses dedans. Si on met un meuble dans l'entrée de sa maison, on va toujours déposer des choses dessus. Tous les meubles, si vous regardez autour de vous, quasi tous les meubles ont des choses posées dessus. Alors, si on diminue le nombre de meubles, le nombre de surfaces, eh bien, les choses, il n'y a rien à faire. S'il n'y a plus de place, on va devoir s'en séparer. Et ça permet de faire vraiment un gros tri. Et donc, dans notre nouvelle maison, on avait moins de meubles que dans l'ancienne, alors que la nouvelle maison faisait la double de taille de la précédente. Mais alors, les filles, quel bonheur d'avoir plein d'espace. Elles pouvaient faire la roue dans la cuisine parce que, voilà, il y a moins de meubles. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est un peu impersonnel, etc. Oui et non, parce que moi, ma touche de personnalité, moi, c'était plutôt le côté très blanc, très nature, parce que voilà, c'est ce que j'aime. Que chaque objet de décoration soit vraiment choisi parce qu'il nous fait plaisir. Et je pense que ça joue beaucoup plutôt que de mettre parce que juste c'est un objet de décoration et que bon, on l'a donc on va le poser. Non, ça ne sert à rien.
Bah non, c'est génial ça. Je vais sérieusement m'y remettre.
Un bon truc pour démarrer, c'est surtout la prise de conscience. Marie Kondo l'a dit dans ses bouquins, c'est vraiment un truc, c'est de mettre par catégorie. Mettez à un seul endroit toute la même catégorie d'objets et vous allez vous rendre compte de la quantité de choses que vous avez. Donc, mettez toute la catégorie en même temps, tous les vêtements au même endroit, tous les objets de déco au même endroit et vous allez vous rendre compte de la quantité astronomique de choses qu'on accumule. Et bon, il faut savoir aussi que dans le passé, on avait une société de nettoyage où on vidait les maisons, tout ce qui était logement insalubre ou simplement les personnes qui souffrent du syndrome de Diogène qui, justement, accumulent beaucoup. Et on se rend compte que dans toutes les maisons, les gens gardent les mêmes choses au cas où. Et c'est incroyable le nombre de au cas où que les gens gardent, et c'est toujours les mêmes trucs, le nombre de tournevis. Voilà. C'est typiquement, les tournevis, c'est les trucs qu'on retrouve. Enfin, Benoît, il sait beaucoup mieux que moi là-dessus sur le nombre de choses qu'on peut retrouver dans les maisons.
Ton best-of d'encombrement, Benoît?
On en a qui gardaient les journaux et les conserves. En fait, ça dépend des catégories d'âge. Ceux qui ont connu la guerre, ceux qui ont eu des parents qui ont connu la guerre et qui ont eu des problèmes dans la vie à ce moment-là. Souvent, c'est les dépressions qui amènent l'accumulation, un décès, une rupture amoureuse. Et donc, on peut accumuler vite, très très vite, ne plus jeter. Vous voyez, c'est la petite société qu'on avait créée sur le côté qui nous a permis de faire, d'engranger un petit peu d'argent pour partir. Mais donc, notre manière de vivre était à l'opposé de ce qu'on faisait dans cette société-là. Ça nous avait énormément les yeux. Le nombre de conteneurs qu'on pouvait vider d'une maison était... pour expliquer la petite histoire, j'étais fonctionnaire de police, où je le suis toujours maintenant depuis 15 ans. Bah, dans le cadre d'un décès, une dame nous a dit « Mais qui va nettoyer ?» Et donc, il y a eu un tilt dans ma tête. Je me suis dit, tiens, mais au final, qui va nettoyer effectivement la scène malheureuse du décès? Et donc, Virginie et moi, on a créé une société de nettoyage après décès et nettoyage des maisons insalubres, syndrome de Diogène, des encombrements et tout ça. C'était un peu notre canevas puisqu'on était dans le minimalisme et qu'on s'est dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, en même temps, bah, les deux, bah, je travaillais énormément. Virginie s'occupait des enfants à la maison. On a fait ça pendant 4 ans. On s'est rendu compte, en fait, que chaque maison accumule énormément d'objets. Bah, ici, je regarde un petit peu ici. Moi, j'ai une faculté énorme, c'est de pouvoir, en regardant une pièce, savoir combien de mètres cubes il y a dans cette pièce.
Merde, je vais me faire vraiment gauler là.
Donc, ici, il y a un petit mètre cube de choses à vider. Mais voilà.
Ah, vider, je t'en prie.
Non,
mais j'utilise quand même un peu. Hein, oui. Là, faut pas croire. Je précise pour ceux qui nous rendent l'audio qu'on est dans mon bureau quand même. Alors, ne va pas virer mes outils de travail.
Il y a deux manières de partir tout quitter. Pour moi, il y a ceux qui ont une belle économie devant eux et ils peuvent dire stop. Et il y a ceux qui doivent
travailler beaucoup.
C'était notre cas. On a dû travailler beaucoup. On s'est dit, OK, il y a 4 ans quand on a créé, OK, on le fait. On sait ce que ça va engendrer. On sait que tu ne seras pas beaucoup à la maison, mais on sait que si on arrive à économiser assez, on pourra le faire après. Et ben voilà, nous, on a pris le parti de dire que sur, j'espère, une moyenne d'âge de 80 ans, on va prendre 4 ou 5 ans pour travailler au max et puis partir, quoi. Parce que souvent, c'est la question qu'on nous pose. Oui, mais comment est-ce que vous faites pour l'argent ?
Maintenant, il faut savoir aussi qu'on est très peu dépensier déjà. À la base, avec le minimalisme, on a appris à être moins dépensier.
Oui, d'ailleurs, vous m'avez appris juste avant que déjà, tu étais très système D, puisque vous êtes connu quand tu faisais du stop. Ouais. Donc déjà, c'était...
Oui, j'ai pris Virginie en stop il y a 15 ans.
C'est trop mignon, j'aime bien.
En fait, le fait d'avoir moins de vêtements fait aussi que c'est toute l'énergie en fait, qu'on dépense. L'énergie, alors je suis habillée comment ? Ah oui, ah, mais finalement mon vêtement là, ça ne va pas avec ça. Et donc on perd un temps dingue. Et si on n'a pas ce choix-là, moins on a de choix dans la vie, plus finalement on a de temps pour soi. Et donc c'est marrant parce qu'on va se dire, oui mais se maquiller, moi c'est un temps pour moi, c'est un temps que j'aime bien me prendre. Oui mais le problème c'est que si tu dois tout le temps réfléchir, choisir, tu perds ce temps finalement. Tu n'as plus cette détente de liberté d'esprit. La liberté d'esprit, ce n'est pas devoir choisir, c'est vraiment être... complètement tranquille. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas non plus qu'on nous dit absolument ce que tu dois faire, parce qu'on pourrait dire, bah oui, si on t'oblige à mettre telle couleur, bah tu dois plus choisir non plus. Mais t'es pas libre. Ici, c'est vraiment d'être libre, de dire, bah voilà, je choisis que ce que j'aime et le reste, j'élimine.
Ah ouais, c'est vrai, mais j'étais étonnée aussi, j'entendais parler des choses, bon, c'est un métier plutôt créatif, donc je me renseigne beaucoup, et j'entendais parler des créateurs, du fait qu'il y avait la contrainte qui parfois aidait beaucoup les créateurs en cas de blocage, quoi. Parfois, ils donnaient des exercices, je me dis, enfin, mais... par rapport à la palette des possibles, c'est quand même très réduit là, ce qu'ils nous offrent comme cadre. Mais parfois, justement, c'est là que ça donne les meilleurs résultats parce que trop de choix, en fait, ça paralyse. Et donc, il vaut mieux garder de l'énergie. Il vaut mieux dire, bon, tu prends ce chemin-là ou ce chemin-là. Et puis, tu vas, que dis, voilà, tu as 55 chemins. Ben, en général, tu t'assures, tu commences à étudier tout le truc, tu perds un temps fou et tu n'as toujours pas avancé, quoi. On peut peut-être un peu parler de vos astuces budgétaires pour ceux qui se disent... Ah, ça a l'air sympa, mais on fait comment vos meilleures astuces pour pouvoir voyager avec un budget réduit ?
Alors...
Avoir un budget, c'était déjà la première
déjà,
chose.
Déjà, ouais, ouais.
Savoir combien on peut dépenser...
Par jour. Nous, c'est ce qu'on fait. On se fait un budget par jour.
Oui, donc on a
c'est
une...
C'est qui c'est, moi je ne connais pas les prix.
Ouais. Donc on a une application, donc on a un budget de plus ou moins 1800 à 2000 euros par mois. À pouvoir dépenser. Alors, les gens vont dire, ouais, c'est énorme. C'est pas si énorme que ça, parce que quand on voyage, on est 6, ça coûte très cher. On a une application qu'on utilise qui est Travel Spend, qui est que chaque achat qu'on fait, on l'encode dedans. Et donc, on a appris aux enfants, bah voilà, on a une moyenne de 62 ou 63 euros par jour. On fait un plein d'essence qui coûte maintenant 90 euros, inflation exigée.
Et donc. 90 ?
Oui, 90 euros. Ça fait un jour et demi sans faire de dépenses. Et donc, en fait, on a appris à nos enfants à encoder toutes les dépenses et ils se rendent compte, on a mis de l'essence, il n'y a plus d'argent pour un jour et demi. On a fait les courses, il n'y a plus d'argent pendant un jour. Et donc, elles se rendent compte que chaque chose qu'on utilise, c'est des dépenses. Et donc, elles voient le graphique monter ou descendre en fonction des dépenses.
Donc, en fait, un des points, surtout pour le budget, c'est de sensibiliser les enfants aussi. Parce que quand on arrive dans des villages où il y a plein de petites boutiques touristiques, les enfants, au départ, c'était « Oh, maman, on achète ça. » Voilà, les produits d'appel ou même à la caisse des grands magasins. Donc, en fait, c'est vraiment sensibiliser aussi les enfants. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un truc de famille. Ce n'est pas un truc, un voyage nous deux et puis les enfants à côté. Non, c'est vraiment un truc ensemble. Parce qu'elles vont faire les courses avec nous. Donc, il y avait question des courses tout à l'heure. En fait, elles viennent avec nous. Donc, elles vont regarder les prix. Et elles savent que si à la caisse, il y a des bonbons, soit on a encore de l'argent et on peut se le permettre, soit on est déjà dans le budget et on s'arrête là. C'est vraiment désensibiliser à combien on a le droit d'argent. Et pour elle aussi, c'est un super apprentissage de la gestion de budget, donc c'est très bien. Et puis aussi, se rendre compte de... Si on mange... On leur a expliqué, parce qu'en Italie, les glaces, j'ai à tort. Si on mange des glaces tous les jours, on n'aura plus le même intérêt. Si on va au restaurant tous les jours, on va être blasé du restaurant, elles seront... Et donc, les glaces, on a dit, écoutez les filles, on ne va pas manger beaucoup de glaces en Italie. On va en manger, parce que c'est vraiment un truc en Italie à faire. où est-ce que vous voulez en manger ? Et alors, on avait regardé qu'il y avait le champion du monde de la glace à San Gimignano. Alors, on a dit, on ira manger une glace là-bas. Et on a mangé, je crois qu'elles ont mangé 3 glaces sur le voyage en Italie. Mais c'était un moment pour être vraiment de bonheur. La glace, quand on leur parle des glaces, elles se rappellent de ces glaces-là. Moins on a de quelque chose, plus on le savoure, plus on en profite. Et donc, ça ne sert à rien d'en avoir plein de fois parce qu'on n'a plus le même plaisir. C'est un choix. On leur a expliqué, si vous voulez voyager longtemps, eh ben, il faudra voyager avec un petit budget. Et donc, tout ce qui est activité aussi très cher. Donc, on fait très peu d'activités payantes. On fait très peu de camping payant. Les bivouacs, y a moyen de bivouaquer quand même en Europe très facilement. Donc, à quoi ça sert de payer si on peut ne pas payer ? Donc, nous, on va plutôt choisir de ne pas payer. Les piscines, on a fait pas mal de sources d'eau chaude, justement, pour éviter. Oui, si on a fait 3 agrotismos sur l'Italie. Mais le reste du temps, on allait dans des sources d'eau chaude. C'est gratuit et l'eau est chaude. Alors, pourquoi aller payer un camping avec piscine si on peut avoir ça gratuitement ? Et finalement, on y trouve plus de plaisir. On y reste autant de temps qu'on veut. Et puis voilà. Donc, ça, les filles, elles ont vraiment bien compris que, bon, voilà, on fait des choix. Et quand on veut faire une activité payante, eh ben, on va peut-être se restreindre un petit peu plus les jours autour. Et comme ça, on aura les sous pour le faire. Et puis, on garde ça aussi pour les occasions spéciales, les anniversaires, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, le budget, sincèrement... il peut être réduit et je pense que bon, nous on a 6, donc ça reste quand même un budget conséquent. C'est surtout les courses et la nourriture qui nous coûtent cher. Mais
l'essence,
oui. Si on est en couple avec 1 ou 2 enfants, franchement, ça ne doit pas être un blocage le budget. Parce qu'ici, on dépense encore beaucoup parce qu'on a le camping-car. Mais si on est en sac à dos, il y a toujours moyen de trouver aussi des endroits pas trop chers pour loger. Quand on était en Asie, le budget était le même par mois. Il n'était pas plus élevé parce que les locations là-bas, ça ne coûte rien. Donc il y a des pays qui sont vraiment. Très bas au niveau prix. Et si ça permet d'aller à la rencontre d'autres cultures, ben, faites-le.
Sinon, ailleurs, tu me disais que quand c'est à l'étranger, un peu plus loin, tu disais que voilà, vous preniez un visa, vous le tuiez, comme vous disiez.
On tue le visa.
On tue le visa, oui, oui. Les policiers qui disent qu'ils tuent le visa. Ça fait peur. Mais non. Donc, vous utilisez à fond. Vous avez aussi il y a un visa, je ne connaissais pas l'existence du visa digital nomade.
C'est la nouveauté. C'est un peu comme si on était dans l'ère du temps. Digital nomade, ce sont les personnes qui travaillent sur Internet, qui peuvent travailler partout dans le monde. Et maintenant, si je ne dis pas de bêtises, le Costa Rica, l'Indonésie, mais après le Covid, prévoit des visas de 1 an prolongeables pour tout ce qui est digital nomade. Donc tout ce qui est web marketing, tout ce qui est référencement, tout ce qui est design et tout ça. Et donc ça permet de pouvoir vivre dans un pays exotique, plus loin au soleil, pour moins cher, puisque la vie là-bas coûte, par exemple pour nous en Asie, avec 1000 ou 1200 euros, on devrait pouvoir s'en sortir par mois. Donc le digital nomade, à mon avis, une location et la vie sur place entre 500 et 600 euros, c'est possible. Le fait de pouvoir avoir le visa digital nomade, c'est également pour pouvoir payer des impôts dans ce pays-là. Et donc, il ne faut pas forcément prétendre avoir gagné de l'argent et tout ça, mais c'est juste pour tous ceux qui voudraient rester plus longtemps. Mais le visa est quand même payant.
Voilà, mais il faut avoir des preuves quand même de revenus, etc. Quand voilà. On travaille, sinon ça trop facile. Mais nous, jusqu'à présent, ce qu'on avait fait quand on était parti en Asie, c'était voir vraiment la durée maximum du visa et on le faisait. Et si on avait prévu de partir en Asie, on repartait comme ça. Maintenant, le souci, c'est avec le Covid, tout n'est pas ouvert, donc on ne sait pas repartir en Asie tout de suite. En tout cas, on a décidé de ne pas repartir parce que justement, on se retrouve avec des petits visas. Et là, c'est faire des trajets en avion pour peu de temps. Ben, voilà, économiquement et écologiquement parlant, pour nous, ce n'est pas vraiment raccord. Faire payer des visas pour très peu de temps, ce n'est pas intéressant. Donc, nous, on essaye vraiment de rester au maximum du temps qu'on peut pour diminuer les coûts journaliers au final. Quoi. Comme ça, le coût, même le billet d'avion, on compte ça dans notre budget.
On a la chance d'être belge et d'avoir plein de visas gratuits. Japon, Thaïlande. On a plein de pays qui sont ouverts où le visa est gratuit. Et donc, ce sont ces pays-là qu'on privilégie avant tout pour que ça soit dilué effectivement dans le coût. Et si on peut prendre un visa de 90 jours, on prendra le visa de 90 jours. Et on restera 90 jours.
Ouais.
Parce que changer de pays, oui. C'est encore la différence que je disais, excuse-moi de te couper, entre faire un tour du monde et être autour du monde. C'est une grosse nuance entre les deux.
On n'est plus du tout en mode touriste. On n'est pas là pour voir un maximum de choses en minimum de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vivre notre vie comme ça. Et donc, plus on va pouvoir rester longtemps à un endroit, mieux c'est finalement, parce qu'on va pouvoir vraiment s'imprégner de la culture. Les enfants vont pouvoir rencontrer d'autres enfants et rester en contact pendant une plus longue période. On veut vraiment vivre notre vie sur les routes, quoi. Voilà. On n'est plus du tout comme des touristes où on a 15 jours de vacances, vite, vite, vite. Et puis au bout de Au dixième jour, on est déjà là, on a pensé au retour. Non, nous, on veut plus ça. On veut vraiment en profiter pleinement et vivre notre vie comme ça.
Et en plus, tu disais que le but n'est pas du tout d'aller voir toutes les choses qui sont à voir dans un pays. Donc, ça m'a étonnée. Tu dis que presque tu les évites, parce que même des choses très belles, s'il y a trop de monde, ça ne vous convient pas du tout. Donc, vous, c'est la nature de tous ces pays-là, surtout, qui vous intéresse, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait. Et puis, les lieux touristiques, bah, c'est du monde. Souvent, c'est payant. Souvent, c'est très cher. Donc, nous, en termes de budget, alors, on ne serait pas voyagé longtemps si on les faisait tous. Les parkings sont plus chers. Enfin, notamment en Europe, c'est souvent ça. C'est qu'il y a le parking à payer, puis il y a l'endroit à payer, puis il y a la nuit à payer parce qu'il faut payer. Là, on ne peut pas bivouaquer à côté d'une ville. Donc, voilà. Et puis, nous, ça ne nous intéresse pas trop parce que ça, de toute façon, on sait le découvrir. Si une ville est très intéressante, on va trouver des informations sur Internet. On va pouvoir voir des photos de la ville qui seront sûrement bien plus belles que les photos que nous, on va pouvoir en faire. Parce que nous ne sommes pas des bons photographes. Donc voilà. Par contre, la nature, on la découvre. Et nous, on adore randonner. Les enfants aussi, heureusement, on a de la chance. Et donc voilà, être plongé en pleine nature, c'est ce qui nous convient. Aller se promener dans une ville touristique, remplie de touristes, avec plein de choses à acheter, avec des appels comme ça à côté de nous, hein, achète-moi, achète-moi. Ouais, non, c'est très peu pour nous, on n'aime pas du tout. Et donc voilà, donc évidemment, notre budget diminue, enfin, on a moins à dépenser du fait qu'on ne va pas dans ces endroits touristiques.
Ah ben justement, j'ai une question de mon autre petite fille pour vous.
Dans quel pays allez-vous voyager?
Ça, c'est une grosse question. En fait, non, c'est dans le monde entier. On aimerait bien qu'il n'y ait pas de limite, mais le problème, c'est qu'il y a quand même des limites en termes de guerre et de sécurité. On a des enfants, donc ça, c'est notre limite. Nous, on veut que nos enfants, à tout moment, on veut qu'ils soient en sécurité. Donc voilà, maintenant, on ne s'est pas empêché. Il peut se passer des choses partout comme il peut se passer en Belgique, voilà. Maintenant, on a envie de faire plein de choses. Et chaque enfant a un peu ses rêves. Alors nous, on a une technique, c'est que dans Google Maps, à chaque fois qu'il y a un endroit qui nous plaît, un endroit qui nous attire, ou une petite chose, ou simplement on voit une photo passer dans un article, on se dit « Ah, ça serait chouette d'aller voir », on se met un petit tag sur la carte. Donc, il y a moyen d'enregistrer les lieux à visiter. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, sur la carte du monde, maintenant, on a plein de petits points à gauche, à droite, de choses qu'on veut faire. Et on va y aller. Alors, dans quel ordre? Ça, c'est plutôt les contraintes Covid, etc., qui vont nous limiter. Mais a priori, on va faire le monde entier. Et si on commence par l'Europe, donc on va aller vers le sud, on va aller voir le Maroc. Et puis, on ne sait pas. En fait, comme on programme très peu, ça nous laisse vraiment libre. Et donc, voilà, est-ce qu'après sera l'Égypte, la Turquie, ou est-ce que finalement on va se décider à aller plus bas dans l'Afrique? Et ben voilà, tout est possible. Et puis après, une fois qu'on aura fait le sud de l'Europe, ben on va partir faire le nord. Et puis une fois qu'on aura fait le nord, on ira faire Canada, États-Unis. Et ça tombera tout à fait un autre ordre parce qu'on n'organise pas grand-chose. On est libre, donc voilà. Et puis évidemment, l'Asie, l'Océanie. Enfin, on a vraiment envie de tout voir. Il y a une de mes filles qui veut voir... Donc Yoko, elle veut voir les baleines. Donc on se trouvera un endroit avec des baleines. Il y en a une qui veut voir les ours polaires. Elle veut aller au Groenland. On ira au Groenland. Moi, je veux voir là où les tortues naissent. Donc, on y ira. Voilà. Donc, ouais, on est très libre. Et même en termes de moyens de transport, on a le camping-car pour l'Europe et les pays chers. Et puis, le reste, on fait en sac à dos. Et puis, ça tombe demain, vous nous retrouverez sur un voilier et on fera une partie en voile. On ne sait pas.
Ouais, c'est génial. C'est vrai, quand on était partis 4 mois, à chaque fois qu'on avait planifié des nuits quelque part... On a fait des frais pour rien parce qu'on n'était pas là, on avait rencontré des gens, on se dit « Ah, c'est trop bête, tant pis, tant pis, cette nuit-là n'est pas remboursable, mais on arrivera un jour, 2 jours plus tard. » Et on s'est dit finalement « Mais non, voilà, on a compris notre leçon maintenant, sauf en Chine où là, tu dois vraiment dire à quelle heure t'es où, avec quel train tu vas aller où, etc. » Là, c'est complètement policé, excusez. mais sinon, c'est effrayant d'ailleurs. Mais sinon, voilà, à chaque fois, on s'est dit « Non, on ne fait plus de plans parce que c'est pas ça le voyage finalement. »
Et si désolé pour parler d'une devise, on a un peu une devise, c'est quoi qu'il arrive, on est ensemble. Donc quoi qu'il arrive, on restera soudés. Et donc c'est un peu le quoi qu'il arrive pour tout. Et donc on se dit, et si au pire, on arrive à un endroit, qu'on n'a pas de logement, on sait bien qu'on trouvera une solution. Il y a du monde, de la population, il y en a partout sur Terre. Et donc voilà, s'il faut, on ira sonner à une porte, on ira demander de l'aide. Voilà, on se dit, il y aura toujours une solution à chaque problème, il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura toujours... Donc ça ne sert à rien de planifier.
Justement, je voulais vous demander quelle a été votre plus grosse galère, puisqu'il y en a quand même, et votre plus belle surprise ou réussite, ou quelque chose qui reste comme un « waouh, ça c'est une belle surprise de la vie ». Donc, on va faire les deux. Hein.
D'abord le positif ou le négatif?
Comme vous voulez.
Le négatif, on a eu un souci de faux policier à Naples.
Et vous ne l'avez pas vu ?
Si, ah. Justement. C'est un peu notre chance, parce qu'on est policier à la base. Donc, on a pris la poudre d'escampette. Donc là, je résume un petit peu l'histoire. Ça, je pense que ça va être nos futures galères. Ça sera plus au niveau de l'insécurité.
En termes de sécurité, on a eu aussi une fois une galère, c'est au Vietnam, avec les visas.
Mais oui, là maintenant, c'est le sport national. C'est la corruption, les bakchiches.
Ça, à l'étranger, il faut le savoir.
Alors, moi, je le vis plutôt bien. Je sais que ça arrive, je sais que ça va être sport, je sais qu'on va être de la négociation. Donc, les visas au Vietnam qui n'étaient pas bons, mais en fait, qui étaient bons. Et puis, donc voilà.
En gros, ils voulaient avoir de l'argent, ils voulaient avoir, ils nous demandaient, je crois, 750 dollars, un truc comme ça. Pour régulariser une situation qui était régulière. Et donc, voilà. Mais au final, on s'en est sorti, mais on a quand même dû repayer mais beaucoup moins que ça.
25 dollars. De 750, on est passé à 25. Mais...
Ouais. Voilà. Maintenant, je pense que c'est la difficulté, surtout pour les femmes seules qui voyagent ou qui voyagent avec leurs enfants. Moi, j'ai la chance d'avoir Benoît. Si j'étais toute seule, je serais peut-être nettement moins à l'aise dans ce genre de situation. Voilà. Ça, c'est clair que d'avoir... un mec grand avec moi, ça aide. Ils nous ont menacé de nous mettre en prison, toute la famille. Hein, donc, alors qu'il y avait une petite d'1 an, donc Yoko, elle avait 1 an à l'époque, elle pleurait et tout. Enfin, mais malgré ça, c'était la menace de nous mettre en prison. Donc, expliquer aux enfants, ben voilà, il y a ce que les adultes disent, il y a ce qui se passe vraiment, et puis il faut un peu se rendre compte, et que de toute façon, on fera tout pour vous. Donc, s'il avait fallu payer la somme, on l'aurait payé pour les libérer. Voilà, mais bon, on savait que nous, là, c'était plutôt lors de la corruption que de la réalité.
Disons, tu réagis comment alors quand on te dit « bon, bah, 750 dollars ou en prison
?» On fait pleurer le bébé.
Ah, c'est toi qui l'as pincé en fait, c'est pour ça
non,
qu'il a...
en fait, ils mettent une pression, donc c'était on est à l'aéroport, on est derrière la vitre où l'officier dit « écoute, ici, il y a un intermédiaire qui veut de l'argent, enfin bref, on comprend ce qui se passe. » Nous, on joue la stratégie, on fait pleurer le bébé et on fait beaucoup de bruit. Et donc, tous les autres passagers du vol et tous les gens qui étaient là au passage de douane et tout ça, une des bonnes stratégies, c'est de faire pleurer le bébé, c'est de foutre la pression aussi, de crier, de faire du bruit. Il ne faut pas oublier qu'on est belge, qu'on a un passeport, on n'a pas un passeport diplomatique, mais ils ne peuvent pas... Enfin, on est policiers, moi, je sais très bien qu'ils ne peuvent pas nous enfermer comme ça du jour au lendemain. Donc, on pourrait très bien faire beaucoup de bruit et commencer à faire un esclandre raisonné. Ouais. C'est un esclandre raisonné. Et puis, nous, on a eu une chance aussi, c'est que...
Mais on a notre ami, sa famille est vietnamienne, donc voilà, il a pu faire le contact avec les douanes. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a peu eu peur de mettre des mots dessus. Donc, on leur a dit, on le disait en anglais, il y a un monsieur qui faisait un intermédiaire. Jamais le monsieur en uniforme nous a demandé de l'argent. C'est toujours été un intermédiaire. Et on a dit à l'intermédiaire, c'est de la corruption ce que vous faites. On a mis des mots dessus, on a dit, écoutez, là, vous essayez de nous extorquer de l'argent. On n'est pas dupes, on sait que voilà, que là c'est vraiment, c'est pas normal, la somme que vous donnez est complètement hallucinante, n'a aucun lien, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'écrit, nous on veut parler à l'officiel, et l'officiel ne voulait pas revenir vers nous. Et donc voilà, le fait de montrer aussi, de leur dire, écoutez voilà, on sait qu'on se fait arnaquer, fait que tout de suite ils sont moins à l'aise. Et voilà, et puis finalement notre ami a fait l'intermédiaire avec les douanes et on est arrivé à un accord qu'on a juste dû repayer un visa. Ça c'était pour clairement, on savait qu'on allait devoir finir par payer, c'était pour la forme, pour que eux s'en sortent la tête haute. Voilà, maintenant on le sait que dans certains pays il faut toujours avoir un peu d'argent à côté parce que voilà, il y a pas qu'au Vietnam, il y a dans d'autres pays aussi où parfois un petit billet aide à passer, ça fait partie des frais. Maintenant il faut pas non plus essayer de nous entuber de trop. Voilà, soyons clairs.
Ouais, je suis là pour me faire entuber quoi.
Et alors une des plus belles surprises, une des plus belles choses qui vous sont arrivées.
Le Danemark.
Ouais, le Danemark, parce que c'était inattendu. Parce que là, c'est venu justement après une galère. Donc, au fait, on devait partir en Norvège. Et puis, avec le Covid, nous, on pouvait y aller parce qu'on était vaccinés, mais pas nos enfants. Donc, même avec un test PCR fait le jour même, etc., rien passait. Au niveau des enfants, les moins de 12 ans ne pouvaient pas rentrer sur le territoire sans motif valable. Et donc, voilà, là, c'était un peu une galère. Et puis, on s'est dit, bon, mauvaise fortune, bon cœur, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va visiter le Danemark. Et c'était vraiment pas prévu, vu qu'on l'avait juste traversé pour aller vite au ferry. Et là, une découverte merveilleuse pour les familles en camping-car. C'est vraiment super adapté. Les enfants ont adoré. Et en même temps, on a fait des super chouettes rencontres au Danemark. On était dans une pizzeria au soir. L'avantage que les enfants parlent anglais, c'est qu'elles vont faire la conversation. Et donc, elles ont été parler au pizzaiolo en anglais. Et puis finalement, l'échange s'est fait qu'il s'est dit, oh, ben voilà les enfants, si vous voulez, je vous apprends à faire une pizza. Et donc, on a attendu pendant une heure. Et après quand il y avait moins de clients, et ben, il a pris les trois plus grands. Donc, et puis, c'est parti. Il leur a appris à faire de la pizza. Ils ont passé une heure et demie, deux heures dans cette pizzeria à faire de la pizza. D'ailleurs, on a eu à manger pour trois jours après. Mais c'était un moment de partage. Et les filles étaient super heureuses. Elles s'en rappellent encore de comment on fait de la pizza et tout. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment une chouette découverte, aussi bien le Danemark que finalement ces contacts qu'on a eu de manière informelle au Danemark.
Oui, on se rend compte que c'est chaque fois quand on a un petit souci qu'il y a un chouette moment, un chouette truc derrière. On marchait le Saint-Jacques-de-Compostelle, on était un petit peu fatigué, la transition était un peu grande à ce moment-là. On fait du boat stop. Donc, c'est pas de l'autostop, c'est du boat stop. Donc, on apprend aux enfants à faire de l'autostop, mais sur le canal.
En fait, il y a un jour où il y avait trop de kilomètres. Il faut savoir que le Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a quand même régulièrement des arrêts, des endroits où on peut dormir. Mais avec les enfants, on fait moins de kilomètres par jour qu'un pèlerin normal. Et donc, on se retrouvait un jour, il fallait faire 26 kilomètres, un truc comme ça. Donc, on s'est dit, avec les enfants, on va quand même leur épargner ça. Et donc, il y a une partie qu'on va faire en boat stop le long du canal. Et là, on a un bateau de Suédois qui s'est arrêté. Très timide au départ, parce que ça leur faisait bizarre de s'arrêter le long du canal pour une famille qui fait du stop. Et puis, ils parlaient un peu anglais. Donc, finalement, le contact est assez bien passé. On a discuté, mais les Suédois sont des personnes quand même relativement réservées. Et puis, ils nous redéposent. Voilà, on fait une partie de trajet, on dort. Et eux ont dormi aussi à un port. Et donc, le lendemain, qui on recroise le bateau de Suédois là-dessus, ben, les filles, on refait du stop. Et hop, on est remonté sur le bateau des Suédois. Et là, évidemment, comme c'était déjà le deuxième jour, la glace était un peu brisée. Et donc, ça aide hein, d'avoir des enfants, surtout. Et donc, on a beaucoup plus discuté. On a vraiment eu un chouette partage avec ce couple de retraités suédois. Si bien que l'année suivante, quand on est parti en Suède en caravane, ben on était chez eux, on était super bien accueillis, ils nous ont fait des traditionnelles boulettes suédoises. Donc voilà, on a mangé avec eux et là c'était vraiment une chouette rencontre. Donc finalement les meilleurs souvenirs qu'on a, ce sont les rencontres qu'on fait mais qui sont vraiment inattendues et donc voilà, et donc nos amis suédois, on les a encore retrouvés cette année, donc et on les reverra sûrement l'année prochaine. On ne sait pas où.
C'est génial, mais c'est vrai qu'on a remarqué aussi, quand on était parti 4 mois avec les enfants, on s'est dit, quand même, c'était quoi, 5,5, 6 ans, et voilà, c'est 7 ans et demi, et on s'est dit, un peu jeune, ça va un peu nous compliquer le voyage, quoi. En fait, non, c'est vraiment le contraire, hein, les gens sont beaucoup plus compréhensifs, plus confiants aussi, peut-être, ils voient bien que, voilà.
Oui, oui. Briseurs de glace.
Oui, c'est ça, des vrais briseurs de glace, voilà, c'est les brise-glaces, c'est vrai.
Et beaucoup aussi en Asie, je pense que le fait que ce soit des enfants qui soient un peu différents des autres, et ben ça attire vraiment. Et donc, en Asie, dans les restaurants ou quoi, on venait nous accueillir, on venait prendre les enfants et jouer avec eux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très différent à l'Europe où souvent on reste plus distant. Ben là-bas, en Asie, le fait d'être différent rapproche. Voilà, la différence rapproche que chez nous serait plutôt le contraire.
On a vraiment vécu la même chose et c'est trop génial. Les plus gros défis que vous vous lancez dans ce voyage pour le futur du voyage?
Virginie voit sur YouTube ou je ne sais pas sur quoi, elle voit un couple avec un enfant qui part faire l'Europe jusqu'à l'Océanie à pied, transport en commun et autres. Ouais, là je pense que ça peut être un chouette défi. En fait, ne plus rien à voir. Alors, on n'est pas du style 0 € à dépenser par jour, on veut être pris et hébergé gratuitement et tout ça. C'est pas une question de budget, parce que on veut faire autrement. Plus tout à pied, plus ouais. D'avion.
Pour que ça soit vraiment l'aventure tout le temps, que le trajet soit aussi l'aventure. Et ça, je pense que ça va être une chose à mettre en place qu'on va faire de plus en plus en famille. Bon, ici, il y a le camping-car qu'on va quand même utiliser, rentabiliser le camping-car, on est bien d'accord.
C'est trop tard, la graine, elle est chez nous, on l'a recréée.
Ouais. Et une fois qu'on a une idée, généralement, on y va. Alors, on ne sait pas dans combien d'années, mais on ira. Voilà. Et donc, il y a sûrement une partie qu'on va faire vraiment en mode aventure, parce que c'est ça qui nous plaît. Et puis, pour que les enfants découvrent plein de choses, c'est un bon plan.
Encore ce matin, au déjeuner, les petites étaient en train de calculer à quel moment est-ce que Sue, donc la dernière, qui a un an, qui va avoir 2 ans maintenant, à quel moment est-ce qu'elle sera assez autonome pour qu'on puisse partir? Donc même chez elle, la graine a déjà été plantée. À quel moment est-ce qu'on pourra dire que Sue sera assez autonome pour pouvoir partir comme ça à pied? Elle a calculé 3 ans, 3 ans et demi.
Donc, voilà.
Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 ans, 3 ans et demi?
Camping-car, et puis après, voilà.
on va faire nos étapes petit à petit, sans contrainte, sans autre. Et effectivement, il y a plein de petites choses qu'on veut faire pied.
Il y a aussi énormément de treks qu'on a prévu de faire parce qu'on aime vraiment ça. Donc, on a le GR5 à terminer, on a le Saint-Jacques-de-Compostelle à terminer, on aimerait bien faire le tour du Mont-Blanc, on aimerait bien faire la randonnée du Sarec avec les enfants quand elles seront en âge de pouvoir marcher autant de temps dans le froid. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et c'est pas que nous, parce que c'est les filles aussi. Hein. Les filles ont cette volonté de marcher et de faire plein de choses. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qui va se passer les années suivantes. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a toute la vie devant nous. Donc, on n'a pas de date de fin. Ça, c'est vraiment le gros avantage. C'est que, voilà, on est parti pour voyager. Et le jour où on voudra se poser, bon, on se posera. Alors, est-ce que ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Ben, on verra bien.
Waouh! Ça, c'est vrai que c'est le plus fou, le plus inspirant de votre voyage. C'est-à-dire, voilà. Ouais, je vais te dire, vous allez où? Bon, on ne sait pas. Et le retour en Belgique est prévu quand? Bon, ça, je ne suis même pas sûre. Mais vous allez où alors? Bah, peut-être là. Donc, tout est dans le flou, mais donc, tu vois, tout est possible, tout est ouvert. Et...
Oui, oui, il n'y a aucune. En fait, à partir du moment où vous avez vendu votre baraque et que vous avez vendu votre voiture, c'est fini. Il n'y a plus qu'à partir.
Oui, tu m'avais dit qu'avant de partir, en fait, tu dis c'est fou comme les gens se mettent des contraintes. C'est pas très compliqué de vendre sa voiture, de résilier les assurances. Et le dernier jour à Scarbeck, tu dis ah, moi j'aimerais bien faire comme toi, mais.
Oui, il faut juste le faire, en fait.
Oui, voilà, c'est passé et le pas. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas grand chose de prévu non plus pour nous. Donc, il n'y a pas de statut qui existe vraiment. Une fois qu'on n'a plus de domicile en Belgique, il n'y a plus rien qui est prévu. Donc, nous, on prend une assurance internationale pour couvrir notre voyage. Mais par exemple, on n'a pas besoin de rapatriement, ça c'est un peu marrant, parce que on n'a pas besoin de payer le rapatriement parce qu'on n'a pas de rapatriement à faire, on ne sait pas où on nous rapatrierait, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais on n'a plus de mutuelle, il y a plein de choses qu'on perd, bon évidemment allocation familiale, tout ça on perd, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on n'est plus de 3 mois en dehors du pays, on n'est plus censé être domicilié en Belgique. Alors évidemment, oui, il y a beaucoup de latitude autour de ça quand les gens partent en vacances 6 mois et puis qu'ils reviennent. Mais nous, on ne voulait pas non plus avoir cette contrainte de se dire garder un domicile en Belgique qui n'est pas vraiment réel. C'est un peu... Et nous, on s'est dit non, on ne veut pas avoir ces contraintes, cette épée de Damoclès, de se dire ah oui, mais il faut repenser à revenir. Et voilà. Donc nous, voilà, on lâche tout. Il n'y a pas vraiment de statut prévu. Le jour où on se réinstallera quelque part pendant plus de 3 mois, ben oui, là, on sera soumis aux règles de là où on s'installera. Mais en attendant, on n'a plus de règles, plus rien.
Waouh! Ça, oui. C'est intéressant, oui.
Plus d'aide de l'État, plus rien, il faut... Ouais, donc c'est pour ça que le budget est important aussi. Hein,
oui.
Parce qu'on a vendu la maison, donc on a une petite somme d'argent sur le compte, mais on peut flamber ça en 5 minutes. Hein.
Oui, tout dépend comment on le gère, ça peut très vite partir, mais comme voilà, nous on en est conscient et on va tout faire pour voyager le plus longtemps possible. On a tellement besoin de moins que quand on avait une maison, que le budget était bien plus élevé quand on était en Belgique.
Il y a des collègues là qui disent « j'y reviens », mais... T'as de la chance, je voudrais bien, mais c'était quoi? Ça t'a fait réaliser quoi? Donc en préparation, tu m'avais dit, dans tes derniers jours à la police à Scarbeck, tu as beaucoup entendu des variations sur le thème de « t'as de la chance, moi aussi je voudrais bien, mais il y a ceci, il y a cela, je peux pas tout lâcher comme ça ».
Pour moi, c'est pas forcément de la chance. Je leur explique qu'au final, il y a qu'à vendre une maison et une voiture. Quand on est jeune, c'est un peu plus facile que quand on est plus âgé. J'ai juste envie de faire passer un message. C'est au final, ben moi, j'ai eu un collègue qui, entre mon départ et ce jour-ci, est décédé d'un cancer. Il avait envie de profiter de sa pension. Il était à 1 an de sa pension et au final, il n'a pas pu le faire. Alors, est-ce que, ben là, on personnalise la pension, qui est, il faut en profiter toujours après. J'ai envie de dire, en fait, il faut en profiter avant. Pour moi, il faut en profiter dès maintenant, dès le moment où on sent qu'il y a de trop, la pression sociale, la pression du travail fait que c'est trop compliqué ou quoi. Il faut arrêter de regarder chez les autres. Je le répète souvent, vendre sa maison, vendre sa voiture, c'est pas compliqué. Ce sont deux gestes, ben, un qui est un acte notarié et l'autre qui est au garage. Mais c'est l'après, il faut juste avoir un projet de vie. Et donc, moi, je pousse les gens à abandonner leur travail et à vivre de leur passion.
Ouais, ne pas attendre d'être pensionné ou qu'il vous arrive quelque chose. Après, c'est trop tard. Faut le faire maintenant. Parce que la vie est vraiment courte et ça, on l'a vu dans notre métier de policier. On peut vraiment mourir du jour au lendemain, de tout et n'importe quoi. Ça ne sert à rien d'attendre. Il faut profiter de sa famille maintenant. Il ne faut pas en profiter plus tard. Alors, il y a des personnes qui, justement, restent bloquées, disent « oui, mais moi, j'aimerais bien partir, j'aimerais bien voyager, mais je suis fort attachée à telle personne. » Oui, mais si cette personne vient décéder demain, et tu auras toujours attendu et tu n'auras jamais fait le pas. Nos familles nous ont dit « ne partez pas, on a envie que vous restiez,
Mais en fait, finalement, c'est un peu de l'égoïsme de bloquer, parce que si demain ils sont plus là, ben voilà, et nous on n'aura pas profité. Donc voilà, j'ai le souhait que dans le monde, tout le monde profite de sa vie, quel qu'il soit, et que ne soit pas pour la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, chacun doit profiter de sa propre vie, et puis voilà, maintenant, à nous d'adoucir les angles avec les autres, avec ceux qui restent. Et aussi, il y a moyen aussi de changer de vie sans pour autant voyager. Il n'y a pas que le voyage. Il y a plein de moyens de changer de vie et de vraiment commencer à profiter de sa vie, faire ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît, mais n'attendez pas nécessairement la pension. Faites-le dès que vous en ressentez le besoin.
C'est un beau message. Et vous ne l'avez pas fait comme des têtes brûlées, quoi. Je veux dire, chez vous, c'est bien carré. Vous avez quand même...
Non, mais surtout, si on écoute un petit peu le podcast, on se rend compte qu'en fait, ce sont des petites graines qui ont été posées l'une après l'autre. On parle de minimalisme, on parle d'école à la maison, on parle d'un premier voyage, on parle d'un travail double, on parle d'économie. Et en fait, ce sont tout ça qui ont amené le fameux jour fatidique où, pour moi, c'est qu'on m'a refusé mes congés, qui a amené au final, maintenant, ok, c'est bon, tout est posé, toutes les pierres sont posées, c'est parti, on s'en va, quoi.
Et maintenant, on se renseigne aussi, je veux dire, on ne part pas complètement à l'inconnu, on se renseigne sur les pays où on va pour une question de sécurité aussi. Donc, on n'est pas très organisateur, ça c'est clair. Nous, on planifie très peu de choses, on essaye d'en profiter, mais on n'y va pas non plus à l'aveuglette et on sait aussi à quoi s'attendre en fonction du pays où on va. Et voilà, on s'adapte en fonction. On est quand même pas complètement tête brûlée, un petit peu quand même.
Mais enfin, ça va pas être bon quand il y a plus de budget. Qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Non, on va pas épuiser. Voilà, il y a certaines choses qu'on cadre et pour le reste, on se laisse vivre.
Oui, un peu de folie.
Tout, juste ce qu'il faut. Et Bina Vibe, alors, c'est quoi?
Alors, Bina Vibe, c'est une partie du nom de famille de monsieur, Binamé. Et puis alors, Vibe, c'est Virginie. Le BE, le dernier BE, c'est Benoît. Et Vibe, il y a aussi la vague. Enfin, c'est vraiment un mélange de tout. Et alors, le nom des filles lui ressort dans le nom d'une camping-car, parce que le camping-car s'appelle Ogis, avec les lettres de chacun des prénoms des filles. Et donc voilà, comme ça, elles ont aussi leur petite patte dans l'histoire.
Voilà, mais donc si on veut vous suivre un petit peu, ce qui est chouette, c'est que vous faites souvent des vidéos, vous les postez sur les réseaux sociaux. Donc on peut vous suivre sur Facebook, sur Bina Vibe, enfin tout ça, je vais mettre tous les liens dans l'épisode. En petite parenthèse, puisqu'on est en train d'enregistrer pendant la COP26, on parle beaucoup des enjeux climatiques. Vous y pensez parfois?
On y pense. Parce que clairement aussi, en termes de contraintes, on se dit, voilà, les trajets d'avion, ici, on pense à aller en Asie, on se dit, allez de Thaïlande, au Cambodge, juste pour faire c'est une frontière terrestre, c'est facile à passer, c'est dommage de prendre l'avion. Donc, on y pense, c'est une contrainte, mais on se rend compte aussi parfois que c'est un mal nécessaire. Voilà, parfois, le camping-car, ça consomme. Maintenant, on est assis dedans. Si on était chacun dans notre petite voiture, ce serait différent. Maintenant, on consomme, mais le fait qu'on voyage comme ça... aussi que on fait de la slow life, c'est-à-dire qu'en voyage on va pas faire plein de kilomètres, on fait maximum 2 heures de route par jour, on voyage vraiment, on prend notre temps et on va essayer aussi de plus en plus aller dans les petits marchés locaux, consommer local, etc. aussi pour découvrir les autres cultures, découvrir d'autres saveurs que si on va chaque fois dans le grand supermarché, on apprendra, on découvrira rien en voyage. Donc maintenant, c'est une conscience écologique qu'on essaie quand même de donner fortement aux enfants. Donc,
Nos jeunes qui marchent maintenant en rue sont éduqués pour l'écologie, c'est eux le futur. Mais nous, notre génération, on doit prendre conscience qu'il y a un problème et que c'est pour eux qu'on doit intervenir. Et donc, en fait, eux sont porteurs du message et nous, on doit les soutenir. Parce que nous, c'est comme le minimalisme, c'est comme une transition, c'est comme changer de vie. On doit s'éduquer à le faire, on doit changer, nous on doit changer et eux sont éduqués pour. Si maintenant on change dans l'éducation nationale, qu'on donne des cours pour ça, moi je serais bien plus intéressé que par des cours j'ai pas de cours qui sont pas intéressants, mais rajouter ça en plus c'est beaucoup plus chouette. Mais de toute façon ça va changer, on le voit, les marches citoyennes, les marches des jeunes, moi je suis le premier à, s'il faut envoyer mes enfants marcher, à les soutenir, à marcher avec eux, et ça doit changer.
Disons qu'on sensibilise nos enfants à ça, ils en sont sensibles. D'ailleurs, la crasse, c'est un des premiers points qu'ils avaient soulevé quand on est arrivé en Asie. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres points qui doivent être à l'attention, et notamment tout ce qui est en termes de pauvreté. Et ça, je travaille beaucoup plus là-dessus avec les enfants. Tout le monde n'est pas traité de manière égale. Et donc, les enfants, on essaye surtout de leur apprendre ça, aussi dans tout ce qui est la question animalière. Donc, les filles, elles voulaient, je vais aller faire une balade en dos d'éléphant quand elles étaient en Asie. Alors, on leur a expliqué aussi quelles sont les contraintes pour les éléphants, etc. Et il y en a une qui est très, très sensible aux animaux, c'est Jill. D'ailleurs, c'est un peu son souhait, c'est de tenir un truc d'éléphant plus tard, vraiment une réserve pour la protection des animaux. Et donc, voilà, le fait d'aller dans des zoos, parce que les enfants, il n'y a rien à faire, ils adorent aller dans les zoos. Et c'est chouette de pouvoir leur montrer aussi ces animaux exotiques, mais aussi il faut leur montrer qu'est-ce qu'il y a derrière. Le fait que l'animal, il n'est pas en pleine liberté. On a été ici dans le Jura, on a été voir Jura Park où il y a des ours et des lions. Pas des lions, des ours et des loups. C'est, évidemment, ce sont des ours qui ont été recueillis, ce ne sont pas des ours qu'on a été chercher dans la nature pour mettre... Mais même, les filles, directement, elles en sont conscientes. Elles disent, oui, mais l'enclos, il est petit. L'enclos des loups, enfin, les loups, comment ils peuvent vivre dans un... Surtout qu'elles sont assez au courant de comment vit un loup. Là. Elles adorent les animaux, donc elles se renseignent beaucoup là-dessus. Et donc, voilà, c'est leur montrer, ben oui, maintenant, le fait de nous aller les voir, on entretient ça, mais notre argent qu'on va payer l'entrée va permettre aussi tout ce qui va être la conscientisation de la population par rapport à ces animaux. Il y a la question d'écologie au niveau, surtout, elle, c'est la pollution. C'est vraiment quelque chose qui les marque très fort. Et alors, il y a vraiment le côté pauvreté, que là, on essaye de les éveiller à ça, leur montrer que tout le monde n'a pas de la chance et que, voilà, et que si nous, on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, à l'aider. Et ça, c'est aussi un de nos fameux... Parce qu'en fait, on a 100 000 projets, c'est ça le problème de notre famille. C'est aussi un de nos projets, c'est d'aller faire vraiment de l'humanitaire et pour que les enfants, elles aussi, puissent apporter quelque chose aux autres enfants.
C'est bien de vouloir déjà aussi les rendre acteurs. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans les tripes pour mener un projet comme le vôtre?
Une femme qui dirige la maisonnée. Si vous avez écouté, vous vous rendez vite compte que je suis passif, elle est active. Donc en fait,
non, c'est pas vrai. Je ne sais pas qui porte la culotte.
Non, ce n'est pas une question de culotte, c'est une question de projet, d'envie. En fait,
il faut être en accord.
Je n'ai pas envie de mourir et de sur mon lit de mort avec des regrets. Donc tout ce que j'ai envie de faire, on va tout mettre en place pour y arriver. Alors parfois c'est conflictuel, parfois on n'est pas d'accord sur le sujet ou autre, mais dans l'ensemble, elle voulait faire du minimalisme, on est devenu minimaliste. Elle voulait faire l'école à la maison, elle a fait l'école à la maison, elle voulait que j'arrête de travailler parce qu'effectivement j'ai beaucoup travaillé, j'ai arrêté de travailler, et au final, elle me porte, elle m'amène vers autre chose, et moi je le remercie entre parenthèses.
C'est gentil. Non, en fait, et lui, il a plein d'idées, plein de projets. Moi, je suis là pour un peu calmer parfois ses projets. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être en accord. Et je pense que c'est surtout ça la clé. C'est que s'il y en a un de nous deux qui disait « Non, écoute, moi, je veux mon confort. Moi, je veux rester à la maison. Ou moi, je veux aller que dans des hôtels de luxe. » ça ne marcherait pas. On en connaît plein des couples où il y en a un qui veut faire quelque chose et pas l'autre. Et ils ne sont pas en accord, donc ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Voilà.
Ils ne doivent pas se séparer pour autant. Hein. Mais la communication, en fait, on est toujours « Ah oui, ce qui est génial, c'est que vous deux, vous avez envie de faire la même chose. »
Mais c'est pas nécessairement vrai, mais en fait, on s'ouvre l'un et l'autre, on s'ouvre au projet de l'autre. Et le fait de rester ouvert au projet de l'autre permet qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et se dire « Oui, ça, on peut le faire parce qu'on est tous les deux. » Finalement, ça, c'est une ouverture qu'on peut tous les deux suivre. Mais à la base, on n'a pas spécialement les mêmes projets de vie. Non.
Je voulais le faire en vélo, elle n'aime pas le vélo, on ne fera pas le vélo.
C'est pas que je n'aime pas le vélo, c'est que ça fait mal au fait.
Oui.
Voilà, c'est le vélo qui ne l'aime pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quelles sont vos valeurs non négociables?
Le mensonge. Je déteste le mensonge. Donc, où on dit les choses comme elles le sont, et c'est un apprentissage qu'on apprend aux enfants, parce qu'on se rend compte que nos enfants peuvent mentir pour des bêtises. une des choses, c'est que le mensonge amène le respect. Et alors... le mensonge...
La vérité.
La vérité, voilà, exactement. Et alors, pour être respecté, il faut être respectable.
Alors, moi, une des valeurs très importantes, c'est que j'essaie de faire comprendre aux filles que si elles veulent être heureuses, ça passe par le bonheur des autres autour d'elles. Et donc, il faut qu'elles donnent du bonheur à leur sœur et elles seront heureuses. Parce que souvent, il y avait des petits conflits parce que, elle a eu droit à ça et pas moi. C'est typique chez les enfants. Oui, mais... Et alors, oui, on essaye de faire équitablement, mais parfois, ça ne marche pas. Et puis parfois, l'équité n'est pas l'égalité. C'est-à-dire qu'il faut parfois un besoin que l'autre n'a pas. Et donc, on va remplir ce besoin-là. Et puis l'autre, elle va se sentir, elle va être jalouse. Elle va dire, moi, je voulais ça. Mais c'est pas être égal de lui donner parce qu'elle n'a pas le même besoin. Et donc, j'essaye vraiment de leur dire, de leur apprendre que leur bonheur passe par celui des autres. Et le fait que les autres soient heureuses, elles sont heureuses. Et elles s'en rendent compte. Plus le temps passe, plus maintenant, elles se rendent compte que si sa sœur est contente et de bonne humeur, elle va jouer avec elle. Elle va être contente aussi. Et puis finalement, petit à petit, elles apprennent que si les autres autour d'eux sont heureux, ils sont heureux. Et donc voilà, c'est ça. J'essaye vraiment qu'elles apprennent à partager parce que l'autre soit heureux pour qu'elle le soit elle-même. Et ça marche. Franchement, les disputes ont vachement diminué depuis qu'on a mis ça en place.
J'adore ça, je vais te le piquer. Je le disais plus ou moins aux filles aussi, mais ce n'était pas aussi clair. Ça va, ça je te le prends, Virginie. Et qu'est-ce qui vous... Si vous deviez préciser ce qui vous rend vraiment heureux, Virginie et Benoît, c'est quoi votre définition du bonheur?
Profiter de la vie. être heureux, bien manger. Enfin, c'est plein de choses, en fait. Mais, clairement, moi, le bonheur passe par mon estomac. Donc, le fait de...
On est deux.
Ouais. Bien manger, être en famille, être libre. Que demander de plus? Pourquoi ne pas être heureux?
Ouais, le pouvoir décisionnel. Le fait qu'il n'y ait personne le matin qui peut se lever pour dire ce que je vais pouvoir faire de ma journée me rend heureux. En fait, ne pas être tributaire de quelqu'un d'autre, ne pas me dire, oh tiens, il y a lui qui va décider ça ou lui qui va décider ça, et si, est-ce que je peux? On est tributaire de certaines lois, certains cadres, mais qu'on puisse vivre dans son cadre, c'est important.
Et on va préciser où on peut vous trouver.
C'est pas vraiment la même audience, donc en fait, on essaie de publier sur les trois, et donc on sait nous suivre. En fonction de si vous préférez plutôt la côté vidéo et vie active, c'est sur YouTube. Les photos plutôt jolies, ça va être sur Instagram, et puis sur Facebook, c'est plutôt le côté plus personnel.
Et toujours sous Binavaille.
Around the world, c'est comme ça qu'on nous retrouve.
Alors pour terminer, quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous ceux qui voudraient se lancer dans une aventure comme la vôtre?
N'écoutez pas les autres.
Ayez un chef comme moi.
Excellent, j'adore. Eh ben, tout grand merci d'être venu à mon petit micro aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous ce matin. Ça m'apporte énormément et j'espère que ça en apportera tout autant à ceux qui nous écoutent.
Merci pour l'invitation.
Merci à toi.
Alors, qu'as-tu pensé de cet épisode? Tu peux me laisser un commentaire sur le site web de Storylifique, sur la page consacrée au Binavibe. Je lis et je réponds à tout. À bientôt.